bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Ouais. La bande originale, on est ravis de vous retrouver avec Leïla Kadour-Bounedi.
Bonjour à
Marina
tous.
Rollman.
Bonjour Leïla.
Daniel Morin.
Bonjour Marina.
Tom Villa.
Bonjour.
Tanguy Passure sera tout à l'heure.
Bonjour.
Et notre invité,
bonjour.
Bravo. Très belle imitation de Tanguy. Artus, bonjour, pour la première fois ce micro.
Oui.
Nous, on a déjà fait des choses ensemble à la télé, mais pas à la radio, donc je suis ravi.
C'est vrai, ben, ravi aussi.
Ravi de vous accueillir. Vous jouez, vous mettez en scène, vous êtes aussi l'auteur, carrément.
Oui.
N'ayons pas peur des mots. De Duel à David et Jonathan, ça se passe à l'Apollo Théâtre à partir du 25, jusqu'au 25 janvier.
C'est ce petit fond de racisme qu'il y a chez lui, il n'arrive pas à le
Est-ce que elle est née quand, cette pièce? J'ai l'impression qu'elle se joue depuis quoi, 2 ans maintenant?
Ouais, ça fait 2 ans et demi. Deux ans et demi qu'on la joue, enfin qu'on la joue, c'est pas la même pièce, hein, je pense.
Ça évolue à chaque fois.
Ouais, ça change un peu tous
déjà,
les soirs.
Déjà, il n'y a pas deux soirs identiques, on est d'accord.
Malheureusement.
Le casting a changé aussi.
Le casting a changé, ouais. Du coup, on a adapté les personnages en plus parce que Greg Romano, qui fait 850 kilos pour 2m10, ne peut pas reprendre le rôle de Cartman, qui n'a pas du tout ces valeurs-là.
C'est une mensuration.
donc, le but, c'est vraiment de leur faire des persos sur mesure.
Céline a eu un heureux événement ou...
Céline a eu, oui, elle a
accouché. Ça fait un an et demi qu'elle est enceinte quand même.
Ouais, mais c'est un peu gênant d'ailleurs parce qu'elle joue le rôle d'une
prostituée.
Hein, on va pas se mentir.
Non. Et,
D'une prostituée.
Prostituée, on dit. France Inter, on dit prostituée.
Ah d'accord. On dit pas.
Mais c'est vrai, dans le spectacle,
on dit pute, par exemple.
Non, ah bah non. Oui. Mais ça, on parle pas de la pièce.
Ici, on dit prostituée. Non. Et du coup, c'était un peu gênant parce que comme elle joue une prostituée, sur la tournée, elle était quand même, elle s'est arrêtée à 6 mois de grossesse. Et c'était un peu gênant quand même, de faire le jouer.
Je trouvais ça très déviant, très bien.
Une femme enceinte de 6 mois, c'était un peu, voilà.
Jusqu'au 25 janvier, Duel à David et Jonathan, et c'est totalement dingue. Et j'ai pas exactement la phrase que vous dites en fin du spectacle, mais globalement, vous remerciez le public d'être aussi con que vous. Ouais. Je crois que c'est ce qui est dit. Mais c'est vrai qu'on se sent,
Non,
on se sent, complice, si tu veux aller au bout de la vanne.
Ces vacances vous en fait un bien.
Avec les vannes faites sur scène, on a le sentiment d'être c'est un lâcher prise total.
Ouais, ben on assume. Il y a plein de choses au début. On s'est dit, il y a une petite surprise avec l'Indien par exemple qui apparaît. Il y a quelque chose qui dépasse de son pagne. Ouais. Et c'est des choses quand on l'a écrit à la base, on s'est dit mais non, on peut pas le faire. Et en fait, on s'est dit ça nous fait marrer. Bon, mais ça nous fait marrer. Voilà.
Il y a des chances que ça fasse marrer d'autres gens.
C'est la seule la seule excuse pour que ça soit dans la pièce, c'est que ça soit drôle.
Et ça fait hurler de rire tout le monde parce que c'est ça aussi.
C'est
que aller vous voir à l'Apollo Théâtre, c'est se dire on va passer une soirée, un spectacle d'une heure et demie, 2 heures, on va voir. Et puis tout d'un coup, on est pris par le rire aussi de tous les voisins qui sont complètement pliés. On sort de là, on se dit, mais ils sont complètement dingues, en fait.
C'est le seul but. Moi, quand les gens souvent, c'est un des trucs qu'on me dit le plus, c'est qu'est-ce que vous êtes con? Et je trouve que, non, mais j'adore.
c'est
un des meilleurs compliments.
On va continuer d'en parler de cette pièce, Duel à David et Jonathan. C'est un prétexte à toutes les bêtises, toutes les vannes possibles et imaginables. Le point de départ, parce qu'il y en a quand même un, le point de départ, c'est l'élection d'un nouveau shérif pour cette ville de David et Jonathan. Et il n'y a que 4 potentiels participants et donc ils vont devoir s'affronter les uns les autres. Il n'en restera qu'un et celui-là sera le maître des lieux. C'est ça le pitch.
Exactement. Dans des duels à mort, évidemment.
Parce évidemment, c'est le principe.
C'est intelligent.
C'est le principe. Mais d'abord, des questions concernant Artus. Oh, le jingle à moitié seulement. Voilà. De quoi était capable son papa pendant les fêtes de famille?
Se déguiser.
Deux choses plein gênantes. Très gênantes.
De se déguiser, oui, mais.
Il y a un rapport avec l'Indien.
En femme.
Exactement. Non, de se déguiser en femme.
Ça, c'est un des trucs qu'on a le droit de dire à ce temps-là. Parce que sinon.
Il a fait deux choses.
Ça, c'était pas. J'ai vu des objets disparaître dans des endroits où.
Non.
Les gens ont cherché leurs clés.
Ça veut dire.
Leur bagnole.
C'est-à-dire que le point de départ de la déconne, c'est l'éducation de papa. C'est-à-dire, il était prêt à tout pour la vanne.
Oui, c'est ça. C'est à partir du moment, c'est drôle, on le fait. Et voilà. Et moi, je l'ai vu. Bah, après, il y avait l'alcool qui aidait beaucoup. Hein. Je vous le cache pas. Il disait pas, allez, je vais enfiler la robe de ma mère. Juste sans pinard.
Vous avez grandi où?
Un peu partout, en Suisse, à Montpellier, surtout à Montpellier. Ouais.
D'accord. Non, mais c'est plutôt des sudistes, vos parents?
C'est plutôt mon père origine italienne, ma mère normande.
Ouais.
Voilà, d'où le fait que je sois gros.
C'était quoi? C'est une vanne sur les armoires?
Non,
ou
mais
sur
tu mélanges de l'huile d'olive et de la crème fraîche, mais t'as forcément que du gras. Donc,
ouais. Que représentent les deux visages qu'il a tatoués sur son bras?
Sa famille.
Exactement. Ouais, mais Tom, tu connais, vous bossez un peu ensemble, non? C'est ça?
Oui, un petit peu. Enfin, de. Oui,
c'est un ex.
Oui. On a le droit d'avoir vécu 6 mois ensemble ou pas?
Il était caché dans son père.
Vous avez tatoué vos parents. C'est super rare, généralement, tatouer ses enfants, je sais pas, mais pas ses parents.
Oui, mais j'en ai pas encore. Ouais. Donc, ils viendront, évidemment. J'ai mes parents, ma sœur, mon meilleur ami et ma femme.
Voilà. C'est risqué.
Alors, tout le monde bloque en général sur le meilleur ami.
Non, moi j'ai bloqué sur ma femme. Ouais.
Ah oui, mais ça s'enlève. Hein. Ça,
non.
Et qui
Tu changes le visage, c'est tout.
Qui est qui? Papa et la femme, c'est la même personne. C'était ça. C'est Pascal et Jean-Pierre, hein, c'est ça vos.
Oui, vous n'avez pas choisi. On ne va pas les juger pour ça.
Vos parents. C'est le premier tatouage que vous ayez eu, c'était vos parents? C'était pour qu'ils acceptent que vous soyez tatoué?
Non, le tout premier, c'est une merde tribale que j'ai sur la cheville, que j'ai dessinée à 18 ans. On fait tous, le premier, c'est une erreur chez tout le monde. Globalement, en général, tu regrettes le premier. Et voilà, c'est un truc que j'ai dessiné qui est pas beau du tout.
D'accord. À quoi correspond le nombre 800? Hey, début d'émission, CPR, on y va. À quoi correspond le nombre 800 pour Artus?
Le nombre
son
de représentations.
Non.
Qui...
À 800 euros, non.
Bah, même moi, je sais pas.
Ouais, c'est moi.
800. Nombre de représentations.
Non.
Le nombre d'heures qu'il fait par an.
Non.
Cachet.
Public.
Ah, le mec.
Par semaine.
Super intermittent du
coup. C'est un concours de quelque chose?
Non.
Est-ce que ce sont des litres?
C'est 800. En tout cas, oui, ça correspond à une unité de quelque chose, une unité de mesure.
De poids?
Non.
Des mètres carrés.
Mais ça a un rapport avec.
Ah, d'accord.
Du volume. De
non.
quoi?
De... quantité de nourriture, un truc,
et...
quelque chose.
Quoi? Ouais, donc, 800.
Kilingurgite.
Kilogramme.
Calories.
Exactement.
Ah, calories.
Ce sont les calories que vous devez maximum ingurgiter par jour.
Non, c'était.
C'est beaucoup.
Je sais pas quoi ça correspond.
J'ai fait 2 mois à fond, là, parce que j'étais bloqué sur Paris pour tourner le Bureau des légendes. Donc, je me suis dit, bon, tiens, s'il faut faire un régime, c'est là, puisque t'es au mois d'août à la Plaine Saint-Denis et que tous tes potes sont sur Instagram.
Sont partis en vacances. voilà. C'est ça, le nouveau lieu de vacances, Instagram.
Sur Insta en vacances. et du coup, je me suis mis une petite pile et voilà. Donc, je mangeais 800 calories par jour j'allais à la boxe 5 à 6 fois par
semaine. C'est quoi 800 calories? Je me rends pas compte.
C'est rien.
C'est pas grand chose.
Parce que pour une femme qui mange pas beaucoup, déjà 1200 calories jour, c'est pas beaucoup. Ouais. Je sais pas, une barre chocolatée, ça peut être vite 150-200 calories.
J'ai été hospitalisé que cette fois.
On va parler de produits naturels sans aller dans du truc industriel. 800 calories, c'est quoi?
C'est combien de carottes?
C'est une pomme et 2 carottes, c'est quoi?
Non,
c'est. En gros, vous voyez les plats préparés pas très bons d'une marque
comme
j'aime. Ah ben voilà, c'est un petit plat comme ça.
Donc c'est un plat de pâte sauce tomate. C'est 800 calories.
Un plat de pâte, un verre de pâte.
Ah ouais, carrément.
Un shooter de pâte.
Pour la journée.
Et ça fonctionne, ça? Vous avez fait?
Oui, j'ai perdu 15 kilos en 2 mois, donc c'est bien.
Et on les reprend ou pas?
Oh, là, normalement, les gens font « Oh, bravo !» et tout. Mais là, on s'en fout, on n'est pas là-dedans, très bien. Europa, ils l'auraient fait.
Surtout, ils se rendent compte que vous les avez repris, peut-être.
Le sens de l'accueil est dommage.
On ne pas les trucs comme ça, sinon j'attaque les chaussures direct. Tout le monde les connaît, tes chaussures. D'accord?
C'est trop facile, ça.
Tout le monde les connaît, tes chaussures. Pour un mec fan de foot, avoir que des chaussures qui percent tous les ballons du monde.
Pourquoi un jour, toute la troupe de duel à David et Jonathan ont quitté la scène?
Pour rire?
Pendant le spectacle, non.
Le feu?
Non.
Vous avez faim?
Non.
Une maladie?
Calories, oui.
Une maladie?
Non.
La pièce était terminée?
Non, justement, non.
Il n'y a personne dans la salle, là?
Si.
Ils se sont rendus compte qu'il y avait quelqu'un de problématique dans la salle. Quelqu'un dans le public qui ne se venait pas?
Ouais. Non.
Ils n'entendaient plus?
Il peut y avoir des rires qui peuvent être gênants, mais
ils ne s'entendaient plus.
Non.
C'était pas la bonne salle?
Si. Non, ils étaient sur scène. Le spectacle a eu lieu. C'était plein. Et à un moment donné, ils quittent tous.
Pour faire une blague,
parce que le public a parié.
Oui.
Le public a parié une blague.
Non, pour faire une blague. Non, pour faire une blague. Cette blague, en l'occurrence, c'était laquelle?
Alors, je sais plus.
Non, si. Un spectateur.
Il y a un spectateur qui est parti aux toilettes.
C'est ça.
Oui, oui. Et bon, comme souvent dans les spectacles d'humour, voilà, on vanne le gars. Et là, c'était très long. Du coup, on a décidé de partir en cowboy. Mais comme on est équipé en micro. On est parti dans le. C'était une très grande salle, les salles style Zénith, style tout ça, donc où il y a des très longs couloirs. Donc on est parti à sa recherche. Et donc les gens dans la salle, ils entendaient juste des cowboys en microté qui disaient: il est là. Ben moi je l'ai pas vu, il est où? Il est peut-être dans l'ascenseur. Attends, je vais voir. Et donc les gens étaient dans la salle, et ils écoutaient un bout de spectacle de nous en train de chercher le monsieur qui faisait caca.
Petit Artus rêvait de danser sur les toits, mais pour quelle raison?
que Mary Poppins.
Exactement.
Passion. Passion, Mary Poppins.
Fan de Mary Poppins, ouais, passion. Vous savez dire le
supercalifragilisticexpialidocious. Mais après, moi, je l'ai appris en italien, donc c'était pas ça. C'était supercalifragilisticexpialidocious.
Ça ressemble.
Parce que ouais, mais c'est pas exactement pareil. Parce que comme je l'ai regardé en italien, parce que j'étais en Suisse italienne à ce moment-là.
Et vous êtes bilingue.
Et je suis bilingue italien.
Ouais. D'accord.
Ce qui sert à rien.
Si.
À part draguer, que j'ai fait 14 ans, mais après, ouais.
Si, ça doit draguer.
Ouais, mais après, il y a le mec qui arrive avec sa guitare et t'as perdu.
Clairement. Mary Poppins, ça évoque quoi encore aujourd'hui? C'est vraiment une madeleine de votre enfance?
Oui, c'est l'univers, je sais pas, c'est tellement magique, tellement, voilà, on a tous rêvé du nounou. Et puis c'est ce côté aussi, cette Angleterre, cosy, où t'as envie d'être dans toutes les maisons, d'être dans les parcs, il pleut tout le temps, il fait un temps de merde, mais t'es bien. Tu vas faire, oh, il y a du brouillard, super.
Et de là, vous êtes vraiment monté sur un toit en disant j'ai envie de danser, ou c'est juste un...
Non, mais en plus, je voulais être, c'était très spécifique, je voulais être ramoneur, je voulais devenir ramoneur, du coup.
Oui, ça, c'est totalement
en Ferrari. Parce que je voulais une Ferrari. Donc, je voulais être ramoneur en Ferrari. Alors que c'est con, parce que les balais rentrent même pas dans le coffre. Du coup, ça n'a aucun intérêt.
Alors, vous avez écrit ces duels à David et Jonathan. C'est jusqu'au 25 janvier à l'Apollo Théâtre, donc. Est-ce que le casting est toujours constitué de vous, Sébastien Chartier, Grégory Romano, Julien Schmitt et Céline Groussard, ou ça a encore changé?
Pour l'instant, je les garde. Non,
non, parce que ça évolue en effet, comme le rappelait Leïla depuis le début. Vous vous êtes mis à l'écrire sur quel était le point de départ quand vous avez écrit cette pièce?
Le point de départ, c'était de faire un western, parce que j'ai toujours été fan de cet univers-là, que je trouve très fort et très marqué, alors qu'au final, il a touché une toute petite région des États-Unis pendant une petite période, mais on a tous joué, nous, aux cow-boys et aux indiens. Voilà. D'ailleurs, c'est drôle.
C'est le cinéma hollywoodien qui a touché le monde entier.
Et qui a réussi, en plus, à retourner le truc en montrant que c'est les indiens les méchants et les cow-boys les gentils, ce qui est assez fort.
Tour de force, ouais.
Il y a quelques bons films où
c'est l'inverse. Oui, ouais. Mais voilà. Mais globalement, les indiens sont des méchants et les cow-boys des gentils.
En même temps, ils sont tellement idiots, les cow-boys, que bon.
Oui, mais c'est ça.
C'est qui gagne.
Mais justement, et c'était un bon point de départ. Les personnages sont tellement caricaturaux que c'était un bon moyen aussi de faire une petite satire, je pense, de l'époque.
De la bêtise des cow-boys.
Ouais, ouais, c'est ça. C'est que là, on a des personnages qui sont racistes, qui sont misogynes, et c'est tous les sujets qu'on aborde aujourd'hui. Voilà, et sauf qu'il n'y a vraiment aucun détour, quoi.
Alors, il y a beaucoup de références et d'allusions faites à l'actualité par moment, et donc ce qui donne le sentiment, lorsqu'on va voir le spectacle, de ne pas voir le même spectacle que celui qui est venu il y a un mois ou il y a un an.
Ouais, souvent. Ouais, c'est ça, on change toujours.
Enfin, moi, j'avais vu avec la vanne sur les gilets jaunes, il est évident que
là, il y a
un an, c'était pas possible. Où il n'y a plus les gilets jaunes.
Maintenant, il y a Rouen et il y a Xavier Dupont de Ligonnès.
Ouais, c'est ça. Ouais. Ils pensent reconnaître Xavier Dupont de Ligonnès.
Et pareil pour les people, ça a évolué aussi, les vannes faites à Maître Gims, les vannes faites à...
Alors, Maître Gims, en fait, on l'a gardé, même s'il ne s'appelle plus comme ça, parce qu'on voulait changer le nom du maître. C'est juste que le maître, moi je voulais que le même... Mais quand on pense à maître, il y a forcément Maître Gims qui vient derrière. Et puis parce qu'après il y a des vannes qui reviennent, voilà. Donc au final on l'a gardé quand elle me demande mais pourquoi vous appelez Maître Gims, et je dis mais parce que je suis noir et en plus parce que je suis pas du tout noir. Voilà. Et voilà, donc ça nous permettait de garder quelques vannes qu'on aimait bien en gardant Maître Gims.
C'est très bête, mais très drôle.
C'est complètement con, en fait, c'est ça. Mais c'est jubilatoire. C'est jubilatoire de se dire qu'on peut s'autoriser à rire en groupe de quelque chose de complètement idiot. Alors, il y a un vrai comique de situation, de répétition. Ouais. C'est sur scène, c'est hyper bien incarné. Et puis aussi, il y a...
Ils jouent chacun plusieurs personnages.
Ouais,
aussi.
Voilà, vous interprétez, par exemple, vous, Artus, trois personnages différents.
Ouais.
Le Mexicain.
Ouais.
Le barman.
Efféminé.
Le barman.
Amoureux.
Amoureux.
Ouais, qui va se marier.
Il est amoureux de tout.
Il est amoureux de tout ce qui.
Des hommes, des femmes, des objets, de tout ce qu'il voit.
Exactement.
Et un méchant.
Complet, quoi.
Et un des méchants qui cherche à diriger la ville en tant que shérif, quoi, en fait.
Exactement,
voilà.
Bobby Dick.
Et c'est aussi. Alors. Par rapport au public, moi, le soir où j'étais là, il y avait un jeune homme de 12 ans avec ses parents.
Mais il y a toujours, mais c'est ça, c'est ça qui est là.
Ouais, mais là, c'était un vieux, hein. 12 ans, c'est vieux. Hein. En général, on en a toujours un.
Il y a toujours des enfants?
Il y a toujours des enfants. Il y a toujours des gens qui font l'erreur. Mais comme il y en avait quand j'étais seul sur scène dans mon one man, il y a toujours
écrit,
des. Voilà.
C'est pas écrit qu'il faut pas venir avec des enfants.
Oui, il faut lire les avis. Bon, avant, on l'avait mis sur l'affiche. Je sais pas pourquoi on l'a enlevé. Peut-être parce qu'on aime bien les piéger.
Bah oui, non, mais surtout, c'est l'une des, c'est un des fils rouges du spectacle, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'enfant, faites comment s'il n'y a pas d'enfant d'ailleurs ?
C'est embêtant.
Vous l'inventez ?
Franchement, il y en a toujours. Il y en a toujours, mais si jamais il n'y en a pas, non, ben on enlève ces vannes-là.
C'est quand même, il y a 4-5 vannes qui arrivent dans le spectacle. Ouais. C'est-à-dire que chaque fois, comment expliquer ça aux...
Ben
chaque fois qu'il y a,
explique,
chaque fois qu'il y a
en fait.
Une horreur sexuelle, dites, l'enfant prend un an de plus.
Voilà. Non, mais c'est surtout. Non, mais c'est à chaque fois qu'il y a des vannes sexuelles qu'il est susceptible de ne pas comprendre à son âge, je prends le temps de lui expliquer.
Ouais. Voilà. En étant encore plus cru que la vanne elle-même.
Évidemment.
Mais ça, c'est très service public.
Parfois, le pipe show, par exemple, n'est pas expliqué de façon complètement. C'est la danse de la pipe, quoi. C'est des pipes qui font un spectacle. Voilà. Donc c'est pas non plus. C'est,
oui, voilà.
C'est pas. On va pas complètement dans le détail.
Où tu vas, Leïla, là où tu vas.
Non, moi, je vais nulle part. Mais je frissonnais pour les parents qui étaient ce gamin de 12 ans.
Moi,
mon Dieu, il va sortir.
Je n'ai pas eu ça. Moi, je n'ai pas eu la danse du spectacle.
Le spectacle des pipes.
Non, c'est quand je mime le.
Non,
c'est de la radio, j'ai le droit de faire ça.
C'est filmé.
C'est deux shakers, on est d'accord.
Évidemment,
c'est
deux shakers, et là, c'est les boules de Motus.
C'est ça.
Tu m'étonnes qu'il ait l'air crevé, le carreau.
Est-ce que là-dedans, vous en profitez pas aussi pour. Dans le spectacle, pardon, tu as raison. Vous n'en foutez pas pour faire une, ouais, aussi quand même une espèce de revue de presse de ce qui se passe dans le monde, de coller à l'actualité, de faire passer des messages aussi.
Si, bien sûr. Le but c'est ça. Enfin, c'est ce que je disais, c'est qu'ils sont tellement forts les persos et ils sont tellement, quand ils sont racistes, ils sont plus que racistes. Quand ils sont misogynes, ils sont plus que misogynes. Et je pense que mine de rien, c'est moi, nous, on essaye d'aller jusqu'au petit truc qui choque un peu.
Choque, ouais.
Ou dire ouais, voilà. Mais voyez, mais au final, quand on a un Zemmour ou un truc, il est pas si loin du personnage que j'ai fait venir en Ku Klux Klan et à qui j'ai dénoncé toutes les personnes de couleur de la salle.
Oui, c'est vrai.
Donc voilà. Tu dis ouais, nous, c'est de l'humour, mais faites gaffe parce que mine de rien, voilà. Il a juste pas la tenue, mais il y a des gens qui pensent comme ça.
Il n'y a jamais une mauvaise réaction justement à certaines de ces blagues-là, justement désigner les personnes noires dans la salle par le personnage qui incarne le Ku Klux Klan.
Non, parce qu'il y a tellement
plein de gens. Les gens qui viennent, ils savent à quoi s'attendre, non ?
Bah, oui, sinon, puis, ils viennent avec des enfants.
Non, et puis c'est toujours, c'est toujours les gens pas concernés qui sont choqués.
Ouais, ouais.
Moi, même avant que sur le One Man, quand je faisais des blagues sur les handicapés, j'en avais des très
violente,
très piquante.
Ouais.
C'est toujours des valides qui m'ont dit ah c'est pas cool. Il y a jamais une personne handicapée qui m'a dit ça va pas ou quoi.
Et en plus puisque
parce qu'il n'y arrivait pas.
Ben non, parce que déjà faut tenir le téléphone, ouais. C'est une galère.
Ouais. Puisque vous parlez du one man show, le point commun aussi avec cette pièce de théâtre, c'est la manière dont elle évolue avec le public, avec l'interactivité, la réaction des uns et des autres, les moments où vous cherchez à vous surprendre vous aussi sur scène. C'est une manière de pas se lasser.
Ah bah oui, c'est une manière de continuer à s'amuser. Moi de toute façon, c'est ce projet-là, il a été fait que pour m'amuser avec les copains sur scène, pour s'amuser avec le public. C'est voilà, le casting, c'est forcément que des gens avec qui je m'entends bien. Voilà,
ah, il vaut mieux.
Il faut que ça se passe comme
c'est
ça.
C'est très intime. Pardon.
Et la salle, c'est pareil. Les gens, à partir du moment où ils sont dans la salle, on les considère comme voilà, faisant partie du spectacle. Et voilà. Des fois, il y a des gens. Et ça nous est arrivé d'avoir des réactions bizarres, des gens.
C'est-à-dire?
Ben je sais plus, une fois il y a une dame qui est sortie en se faisant le signe de croix, apparemment elle était choquée
elle avait été souillée,
de
fallait casser les toits,
mais oui, mais clairement mauvaise pioche madame, je suis désolé.
Et sur scène vous vous défiez aussi avec tous vos partenaires, j'ai l'impression il y a des moments où vous vous aidez pas, plutôt vous cherchez à enfoncer même le partenaire quand il est perdu, soit dans sa réplique, soit dans un moment d'impro que vous trouvez bof, enfin voilà, vous êtes vraiment terribles les uns avec
mal
les
joué.
Autres
ouais.
Ben oui, parce qu'il faut l'assumer déjà, faut arrêter, je pense, de prendre les spectateurs pour des cons, pour des gens bêtes. Enfin voilà, ils le voient en fait quand tu t'es gouré de.
Ouais.
Enfin, ils le voient clairement, c'est vu. Donc autant l'assumer, autant.
Ouais, puis il y a une espèce de mise en abîme. C'est-à-dire vous commentez la pièce de théâtre, vous dites, vous dénigrez la pièce de théâtre en disant c'est une pièce, on voit bien que c'est du décor, c'est faux, on voit bien que tout est faux et ainsi de suite. Ça, c'est écrit de jouer avec ce côté. Je sors de la bulle de la bande dessinée, façon Gottlieb un tout petit peu, pour regarder la bande dessinée elle-même ou ce qui se passe aussi souvent au cinéma dans des Mel Brooks, le sentiment comme ça. Je sors de la pellicule et je regarde moi aussi l'écran. Comme vous.
Mais c'est exact. De toute façon, Mel Brooks, voilà, moi, c'est une des inspirations. Le shérif est en prison de Mel Brooks. C'est clairement un des points de départ de cette pièce. Oui, et puis je pense que c'est quand l'univers est hyper marqué comme ça, comme les, là on a des beaux costumes, on a des beaux décors, on peut encore plus se permettre de sortir, parce que à partir du moment où on décide de revenir dedans, les gens ils sont tout de suite, voilà, il y a pas les codes, on n'a pas besoin de redire attention, je suis un cowboy, lui c'est un indien, je suis le méchant, ça, voilà. En trois secondes,
que,
on allait voir.
Il y a que le feu de bois finalement qui est un peu limite. Dans...
Il y a que le feu de bois. Mais il est génial parce qu'il est kid justement. J'ai dit qu'il vient de Jiffy en plus.
Et on trouve de tout. Duel à David et Jonathan. Ça se passe à l'Apollo Théâtre. C'est jusqu'au 25 janvier et c'est extrêmement drôle. Vraiment, on vous encourage à y aller. Vous allez vous régaler, Artus. À partir de maintenant, vous ne répondez pas. Pardon.
J'aime bien.
Vous ne répondez.
Assumons notre relation.
À aucune question. Les questions et il n'y a aucune réponse. Questions et réponses, tout est fait par Tom Villa.
J'aime bien cette chronique.
Artus, bienvenue dans l'émission. Je crois que c'est la première fois que vous venez ici sur France Inter. Alors ça fait quel effet?
J'arrive pas à dormir, c'est un peu chiant.
Ah d'accord, ok. Bon, on va essayer de faire moins de bruit. Après, je comprends que pour un artiste, 11h, c'est comme se lever à l'aube. Hein.
J'arrive pas à dormir, c'est un peu chiant.
Oui, alors vous l'avez déjà dit, ça c'est le problème du direct, c'est que des fois quand il y a un petit son qui saute, mais du coup ça... Donc du coup, on va passer au son... Ah, il y a un petit bug technique. Est-ce qu'on ferait pas une petite pause? On recale tout et on revient dans 2 minutes.
Si tu veux.
On fait ça?
Y a aucun... mais
c'est toi qui décides.
Moi j'ai mal dormi, je suis un petit peu...
Je suis désolé.
Il y a aucun...
Mais là quand ça part pas bien, on fait une petite pause.
Mais il y a aucun problème. Tiens, ça... On est dans la pièce de théâtre, Duel à David et Jonathan. Elle vient d'où cette musique?
C'est une créa qu'a fait Cartman.
Qu'a fait alors?
Qu'a fait?
Ah bah oui, si tu veux. C'est un bon donné, si tu veux être
total. Bah
oui,
faut dire les bons mots. Ouais,
bah, au bon endroit.
Ouais, n'importe quoi. C'est une créa qu'a fait Cartman, tout à fait. Et voilà, et qui colle très bien à la pièce. J'aime bien ces univers.
Et vous n'avez pas envie de reprendre une musique? Enfin, vous vouliez créer votre propre musique plutôt que de prendre Il était une fois dans l'Ouest ou une référence que tout le monde avait, la musique à harmonica?
Oui, parce que les droits d'auteur.
Et puis elle marche bien cette musique.
Principalement. Ouais. Et parce qu'elles sont tellement marquées, les musiques de western.
C'est vrai.
On met les 7 mercenaires, on met le bon, la brute et le truand et tout. Enfin, c'est pas possible. Les gens, ils ont le film. Donc voilà, il fallait leur mettre autre chose en tête.
Et vous l'avez créée à Avignon, cette pièce? Je sais que vous l'avez jouée là-bas, justement, avec Cartman. C'était le début?
On l'a jouée 2 ans. Non, en fait, on l'a démarré au Feu de la Rampe, à Paris. Ouais. Et après, on l'a jouée 2 fois au Festival d'Avignon. 2 ou 3, peut-être. 2 fois, je crois. Et en tout, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on la joue.
Ouais, donc il doit y avoir un nombre conséquent de spectateurs qui ont vu la pièce tout cumuler.
130 000, tout à fait.
Wow.
Et là, on travaille sur le film.
Ouais, ouais.
L'adaptation au film. On
n'est pas à l'abri d'adapter.
On n'est pas à l'abri. Déjà, on n'était pas à l'abri d'un succès, maintenant on n'est pas à l'abri d'un film.
On n'est pas à l'abri de l'adapter.
Justement, tiens, on est à l'abri de rien. Voici Tom Villa, le retour.
Ah, yes! Allez, on y croit. Artus, bienvenue dans l'émission. Je crois que c'est la première fois que vous venez ici sur France Inter. Ça fait quel effet, alors?
C'est l'air qu'il y a les cafards, ça pue, c'est moche.
Ah oui, alors balancez pas tout de suite. Mais sinon, l'émission en elle-même, la bande originale de Nagui, vous la trouvez comment?
J'arrive pas à dormir, c'est un peu chiant.
Voilà, c'est ça. Donc on va essayer de faire un petit peu moins de bruit. Après, je comprends, pour un artiste, 11h, c'est un peu comme se lever à l'aube. Et...
Disons que t'as pas une piole.
Oui, ça va un petit peu loin, Artus. Attention.
Si un jour tu te fais chier, viens, on se savonne.
Eh ben non, je me fais pas. Je m'embête pas du tout dans la vie. C'est con, hein. On va plutôt revenir à l'actu, hein, une actu très dense, où vous êtes sur tous les fronts. Et
Je reprends du service à la DGSE.
Oui, alors bien sûr. Alors je précise pour les auditeurs, Artus joue dans la série Le Bureau des Légendes, qui est formidable, sur Canal. Oui. Mais il joue un agent secret. Il n'est pas vraiment agent secret.
Voilà. En fait, si.
Non, sérieusement, vous êtes agent secret, en vrai. C'est-à-dire que vous êtes un expert en close combat, par exemple?
Frappe-moi le plus fort possible.
Non, on va pas faire ce genre de choses. Je me connais, ça va me finir, surtout pour moi. Donc voilà. Alors, ok, si vous êtes vraiment à la DGSE, votre prochaine mission, c'est quoi?
Le projet KO.
D'accord, ok. Et il consiste en quoi, ce projet KO?
En un mot, je dirais débile.
Très bien, c'est malin, du coup, qui vous est mis sur le coup. Enfin, non, si vous êtes vraiment agent secret, ça veut dire que, par exemple, vous êtes capable de vous créer n'importe quelle légende.
Tout à fait.
Ok, super, alors on va faire un petit test. Imaginons que vous êtes un homme d'affaires anglais. Ouais, je suis désolé, on comprend rien. On change. Vous êtes québécois?
Si t'es bien dans ta peau, tu seras bien dans son cul.
Oui, alors on a trop bien compris. Pardon, on va changer de personnage. Vous êtes un physicien italien qui travaille dans le nucléaire. À vous.
Vivo per lei, quando sai, la prima volta.
Ok, vous n'êtes pas dans le secret, on est d'accord. Hein.
Moi j'ai une meuf, ok?
Oh, l'excuse de gamin, Nagui, il en a 12, et alors? D'ailleurs, vous savez quoi, je vous laisse avec lui, tiens.
Je me suis renseigné sur lui parce que je connaissais pas.
Ok, très bien. Vous avez trouvé quoi sur Nagui alors?
Il fabrique des savons.
Ah, putain de renseignements. Super, vous êtes au top. Et sur moi, vous êtes renseigné?
C'est un mec de 30, 35 ans qui se fait bien chier dans la vie.
Bon, ok, vous avez pas tort. Et ben, bonne émission. Yes.
Avec Nagui. Il se fait bien chier dans la vie, mais ce jeudi et ce vendredi, il sera
si
à Bordeaux
oui.
pour son spectacle Les Nommés Sont, Tom Villa, voilà.
Exactement.
Ouais, bien. Retour dans la musique aussi de David et Jonathan. Bon, bon, bon. Les pauvres ne sont pas de retour, non?
C'est un moment. How, 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 Billy, tu sais, tu vas te relever. Prends sûr, tu vas y arriver. Hey, David et Jonathan, compte sur toi. Oh, les petits, oh.
Ça aussi, c'est Cartman qui l'a écrite?
Oui, on l'a, en fait, c'est nous qui avons fait tous les chœurs enregistrés et après Julien Schmitt chante en live dessus.
Oui, non, mais je parle du texte, la chanson, la mélodie.
Le texte, non, c'est nous qui l'avons écrit, lui, il a fait la mélodie, ouais.
D'accord.
Il est fort, hein.
Il y a un truc hein, pour un réalisateur aussi.
Évidemment, réalisateur.
Et aussi réalisateur.
Jongleur, il jongle comme personne.
Et coiffeur.
Et Nicolas étant son véritable prénom.
Nicolas, tout à fait. Voilà. Chatoni.
Duel à David et Jonathan, c'est au théâtre, à l'Apollo Théâtre, jusqu'au 25. Ça va devenir un film, donc c'est ce que vous nous dites. C'est un projet, c'est une envie ou c'est parti pour.
Il y a des gens qui. Voilà.
Toute la partie justement réaction avec le public, la partie interactive, la partie des impondérables, la porte qui se ferme mal, la chaise qui est pas au bon endroit au moment où on veut s'asseoir, enfin tous ces trucs là au cinéma, on perdrait cette part d'improvisation et de réaction.
Oui, mais et en même temps, ce qu'on perdrait là, on le gagnerait ailleurs, puisque enfin, voilà le en fait le but c'est de partir de cette histoire là. Clairement, on va
et
pas
d'en
pouvoir...
écrire une autre ou d'avoir d'autres vannes en plus.
Oui, voilà, c'est vraiment c'est pas adapté telle quelle la pièce, mais c'est garder cet univers, garder cet esprit-là. Et voilà, il y a plein de vannes visuelles qu'on peut rajouter grâce au cinéma. Voilà, moi j'en ai mille en tête que j'ai envie de faire, et c'est pour ça, faut y aller là.
Et s'il y en a que vous testez aussi le soir au théâtre, et vous voyez si vous les gardez ou pas dans l'évolution de la pièce, dans son écriture, entre sa naissance et aujourd'hui.
Pour le film?
Non,
mais pour la pièce, oui, tout le temps. Ouais. Tout le temps. Et bien, il y a des fois, il y a des belles surprises, des fois, il y a des surprises où on dit bon, bah tant pis.
Et ça, comme d'habitude, vous le dites sur scène, du doigt, j'avais envie de la tenter, je
oui, mais de toute façon, les gens le sentent à la réaction. Une fois, j'en ai fait une sur Quesada, et elle n'est pas passée du tout, par exemple.
Oui.
Voilà.
Sur la mosquée aussi, il y a un truc.
Sur la mosquée, sur la mosquée, celle-là, elle passe. Ouais, celle-là, elle passe.
Il y en a une sur Cyril Hanouna, parce que vous aviez envie de.
Ben voilà, c'était Cyril, je l'avais remplacé par Quesada, par exemple. Voilà, en changeant la vanne. Parce qu'en fait, c'est une soirée, il me dit, c'est une soirée à thème. Et je dis, c'est quoi le thème? Et en fonction. En fait, je mixe deux trucs, et du coup, je dis, voilà, c'est un thème tel. Et là, je sais plus ce que c'était. Le thème, c'était. Enfant et 12 coups de midi, ouais, c'est une soirée Quesada. Enfin voilà, je sais plus ce que c'était.
C'est pas passé.
Elle est pas passée du tout.
Non, on joue pas avec tout.
Voilà.
Voici Marina Rosa.
Bonjour les amis, ce week-end, mais ça va bien et vous?
Ah cool.
Ouais, ce week-end je me retrouve en soirée à discuter avec un type des mairies du mariage et lui de me demander, mais alors comment toi tu t'es décidé à te marier? J'étais embêtée parce que moi je suis pas experte, tu vois, ça fait même pas deux ans que je suis mariée, mais le mec en question bosse chez CNews, donc pour lui moins t'es calé, plus t'es vraiment l'expert à interroger. La semaine prochaine il reçoit Brigitte Bardot pour un sujet vieillir avec grâce, et c'est vrai que c'est une grosse décision cette histoire de mariage à part ça, mais on la prend un peu à la légère je trouve, parce que c'est comme une circoncision, vu qu'il y a une fête, on fait moins gaffe. Mais en vrai, ça a des conséquences importantes. Alors que dans l'autre sens, tout le monde s'excite sur d'autres trucs qui sont pas si importants finalement. Par exemple, les tatouages. Arthur, t'es bien placé pour le savoir. Les gens deviennent fous. T'es sûr de ton choix? T'as pas peur de regretter? Ben, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que contrairement à un mariage, le jour où tu décides d'en faire retirer un de tatouage, il part pas avec la moitié de tes amis et une table basse que vous aviez chinée au plus, tu vois. En gros, un tatouage, tu l'as jusqu'à ce qu'il te plaise plus. Et puis, si un jour il te saoule, tu peux le dégager. Alors que le mariage, c'est pas censé être plaisant tout le temps. Ça peut évidemment, mais le slogan c'est quand même pour le meilleur et pour le pire. Ouais.
C'est pas que pour le meilleur.
Pour le meilleur et pour le. Ça marcherait moins bien pour un restaurant de fruits de mer, tu vois. Nos huîtres, ça dépend des fois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'est pas sûr quoi. Le mariage c'est un contrat dont la clause principale c'est pour le meilleur et pour le pire. Ça veut dire que tu signes pour le pire, parce que pour le meilleur il n'y a pas besoin de contrat. Tu restes. Quand t'es sain d'esprit et que tout va bien, tu continues. Par exemple, tu t'arrêtes jamais au milieu d'une pizza. C'est une pizza. C'est merveilleux. Tu continues jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pizza. Les gens qui s'arrêtent au milieu d'une pizza, qui ont l'audace de décider qu'ils en ont assez de la pizza alors que l'univers a mis de la pizza sur leur chemin, c'est sûr que c'est des gens qui torturent des petits animaux dans leur cave. Tu vois, eux, déchéance de nationalité immédiate. Mais donc pour le reste, les gens normaux, quand ça va, tu restes. Donc non, pour le meilleur et pour le pire, ce que tu promets surtout, c'est pour le pire. Le mariage, c'est un accord où tu dis, bah, ok, si ça devient nul, bon, je reste, d'accord. Et c'est à ça qu'on devrait penser quand on s'engage, tu vois. Pas est-ce que je kiffe cette personne, mais tu vois, c'est pas compliqué. Est-ce que les trucs nuls avec cette personne, ça passe? C'est ça la vraie question. Alors moi, je me suis un peu posé cette question, mais surtout, je pense que le truc qu'il faut se demander avant de s'engager, c'est est-ce que t'as assez vécu? Il y a aussi de ça, tu vois, parce qu'en théorie, c'est pour la vie, cette histoire. Et ça, c'est une question que je me suis posée avant de me marier. Je me suis dit, est-ce que t'as vécu assez de trucs? Alors, je me suis fait une petite checklist, tu vois, je me dis, ok, ça c'est fait, herpès, papillomavirus, etc. Et le truc qui m'a vraiment décidé, c'est je pense que j'avais déjà vécu le truc qui atteste d'une vie amoureuse bien remplie, c'est que je m'étais déjà fait briser le cœur. Et ça, c'est vraiment un truc, tous les gens qui nous écoutent, si vous ne l'avez jamais vécu, je vous le souhaite. Vraiment, c'est
avant
hyper
le mariage.
Important. Ouais. Au moins une fois dans ta vie, de bien te faire péter la gueule en amour. Je pense que c'est très important. Particulièrement pour les femmes hétéros. Vraiment. Parce que pour nous, se faire briser le cœur, ça peut faire perdre ce goût naturel qu'on a parfois, les femmes hétéros, pour les énormes trous du cul. Tu sais, il y a une personne comme ça, dans la vie de beaucoup de femmes, où on a un attrait pour les immenses connards. Tu vois, ça te prend comme ça quand t'es jeune. On a beau savoir que c'est pas bien, on y va. Tu sais, c'est comme la moto. Les gens ont beau te dire, non, il faut pas, c'est trop dangereux. Tu dis, si, il faut, c'est tellement sexy. Et il suffit d'une fois où tu te prends une bonne gamelle à moto pour comprendre, ouais, non, finalement, les trottinettes électriques, c'est bien aussi, ouais. Et il est chauve, il a du bide, mais t'arrives à l'heure, personne n'est mort. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Évidemment, à nouveau, je suis pas experte. Hein. Donc, si vous-même vous songez à faire l'acquisition d'un mari, ne faites pas comme les chaînes d'infos, demandez leur avis à des gens concernés et surtout, n'oubliez jamais que quoi qu'il advienne, en amour, en amitié, peu importe, il vous restera toujours la pizza.
Merci, Marianne. La bande originale.
Dans cette bande originale, l'Artus est notre invité. Il continue depuis 2 ans et c'est un énorme succès, que ce soit à Paris ou en province, en tournée, avec ses duels à David et Jonathan et cette troupe dont je vais redonner les noms. Il y a Greg Romano, Sébastien Chartier, Céline Groussard, la politesse aurait voulu que je commence par elle, et Julien Schmitt autour d'Artus. Et la vie d'Artus en musique donne quoi en 1987 ? C'est votre année de naissance, donc j'imagine que c'est parce que vous aviez forcément dans vos écouteurs, mais c'est ce qu'on écoutait à la maison, Brel ?
Oui, mes parents ont beaucoup écouté Brel, et c'est surtout que je voulais à tout prix placer cette musique, parce que c'est pour moi la plus belle musique du monde. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive. C'est la plus belle chanson du monde, elle est folle cette chanson. Elle est folle.
Ah, l'hymne à l'amour, c'est pas mal aussi. Hein.
Ouais, mais...
Un peu facile, l'hymne à l'amour. Là, il y a plus de recherche. Là. C'est plus
non,
bossé.
Mais je trouve ça fou.
La chanson des vieux amants.
L'interprétation.
Après, ce qu'on vient de dire sur le mariage, en plus. Ouais.
Quand il dit on est devenu vieux sans être adulte et tout, enfin c'est que des trucs que je trouve
touchants.
Enfin, je suis un grand fan de Brel.
Vous êtes né près de Montpellier, donc avec un papa qui se déguise.
Au Chénet.
Voilà.
Mais c'est pour ça que c'est pas très loin de Montpellier, c'est dans le 78.
Ah non, mais vous êtes né au Chénet, vous avez grandi.
Mais avec les TGV, tout va vite.
Vous avez grandi pas. Vous avez grandi près de Montpellier.
C'est pas loin.
Ouais, vous avez grandi près de Montpellier. Ça se fait vite. C'est 3 heures de train, on est tranquille. Je voulais revenir sur votre prénom. Votre nom de scène, c'est Artus.
Oui.
Dans la vie, c'est Victor Artus.
Ouais, c'est un prénom composé.
Ouais. Et d'où vient Artus, en fait ?
Alors, ça vient du baron d'Ognon Artus de Solaro, un truc dans le genre.
Le baron d'Ognon, ça existe, un
ouais,
baron d'Ognon ?
Ouais, ouais, vraiment.
Non, c'est un personnage.
Non, et c'est grâce à lui. Attends, j'ai quand même un des ancêtres qui pète la classe. Hein.
Le baron d'Ognon ?
Oui, ouais. Ben attends.
Moi, j'ai vu le film Nagui, c'est vrai que c'était...
C'est que c'est, il était placeur à la table de Louis XIV, et c'est lui qui disait où les gens se mettaient. D'où le en rang d'oignon, ça vient de lui.
En rang d'oignon.
Non, sérieux. Voilà. Donc c'est grâce à mes ancêtres qu'on dit en rang d'oignon.
Et tu l'écris de la même manière ?
J'en ai aucune idée. Je ne sais pas du tout.
Donc c'est vraiment un lien familial. Moi je pensais que c'était votre père qui avait trouvé ça dans un bouquin et s'était dit c'est joli.
Apparemment c'est un aïeul.
Ah ouais, quand même.
Putain, faut le caler aïeul.
Ouais, c'est joli. Ouais,
tu peux l'aimer maintenant ?
C'est beau.
A-I-E-L. Aïeul.
Et pour vous situer aussi dans la fratrie, vous êtes le petit dernier. Il y en a beaucoup avant vous ou pas ?
Oui, il y en a 4, mais c'est un peu une famille, c'est que des bâtards. Hein. Il y a rien de, il y a pas de pur sang. Je suis le seul pur sang de mes parents.
Quel honte. Ce mec est prêt à tout.
Vous vous rendez compte
qu'il y a des gens qui se posent vraiment la question de savoir quel est le vrai et le faux de ce que vous dites ?
Mais tout est vrai, c'est ça le problème. Le problème, c'est que tout est vrai, sauf que c'est dit sans détour.
On arrive en... Déjà, ça va vite, en 2011.
Let's go ! Party rock is in the house tonight. Everybody just have a good time.
C'est une moins connue de Brel seulement.
C'était sur le deuxième album.
Ça passe bien.
C'était avec Brassens.
Elle évoque quoi cette musique pour vous, LMFAO?
La fête. C'était la fête. C'est une musique. Elle est bien. T'as envie de
tu vois. Bouger.
Ouais.
Ouais. Tiens, oh, on est allé un
c'est
peu.
C'est filmé, t'as dit. Hein. On est... Et ça, c'est elle en finale de Danse avec les Stars, mon pote. C'est-à-dire le niveau de l'émission.
Et on vous retrouve en 2011, Artus, au Festival d'Avignon. Un peu sous la contrainte, j'ai cru comprendre. Parce que vous êtes formé au cours Florent, vous êtes resté quelques mois. Ensuite, vous avez fait les cours d'Agnès Torres pendant 2 ans.
Oui.
Donc vous avez une formation de comédien.
C'est vrai, c'est très triste, mais c'est vrai.
Ouais, je sais plus avec
on l'embrasse. Mais non, mais c'est...
non, mais oui. Mais
après votre passage, en fait.
C'est parce que j'ai pensé à elle, ça fait très longtemps que j'avais pas eu son nom.
Donc faire une vanne, c'est pas possible.
Mais si, parce que je suis parti et elle s'est suicidée. Je sais pas si c'est un lien, mais. Non, elle va très bien, elle va très bien.
Enfin, je sais
pas.
Horrible.
En fait, je sais pas. Ça.
Ah non, mais moi, ne faites pas ça.
Crois, parce que j'avais entendu la rumeur. En fait, j'attendais un peu une confirmation de votre place.
Non, j'ai pas tout checké.
Je voulais savoir si c'était suicide ou pas.
Elle aurait pu.
Arrête, mais
personne n'a la réponse.
Je sais pas.
Bon, on revient en 2011.
On l'embrasse au cas où. Voilà.
Okay. Quoi qu'il arrive,
mais non, dans les deux cas,
s'en fout.
Mais non, on s'en fout pas, on sait pas.
Bon, arrête. Bref.
Bon, alors, c'est la mignon, forcée. 2011,
voilà. Oui. Vous faites plein de cours de théâtre, tout se passe bien ou pas. Et vos parents se disent à un moment, il faut le booster un petit peu, ce petit. On va lui louer une salle au Festival d'Avignon et tu vas aller jouer.
C'est exactement ça. C'est que, bizarrement, moi, contrairement
plutôt à. Plutôt sympa comme parent.
Ah, oui. Je comprends.
Le budget,
en fait, c'est,
tu m'étonnes.
C'est eux qu'on crée en moi. Moi, je me suis toujours dit que c'était pas un métier, que c'était trop dur de réussir là-dedans. Donc, moi, j'étais parti pour être cuisinier et c'était très bien. Voilà, c'était
un bac pro de cuisine. C'est
ouais.
ça
et c'était un vrai métier où j'allais pouvoir faire une vraie carrière. Voilà. Et à un moment, ils m'ont dit bah, écoute, maintenant que tu as le diplôme, essaye. Voilà, prends le risque et puis au pire, tu retourneras en cuisine.
Mais ça veut dire qu'ils sont hyper renseignés pour se dire on t'a loué une salle, ils ont fait une démarche dingue.
Ah oui, oui, oui.
C'est
bah
pas leur
sont...
milieu, j'imagine.
Ah non, pas du tout. Spectacle. Ils sont agents immobiliers et dans l'informatique, donc rien à voir. Mais bah, c'est pour ça aussi qu'ils
normalement, ils achètent
les sont sur mon bras. Voilà, c'est ça. Ils les revendent. Et non, et en plus, après, tout est allé très vite, puisque au mois de juillet, j'ai fait le Festival d'Avignon, et en septembre, j'étais chez Laurent Ruquier dans Manque en Rien.
Parce que l'assistante de Ruquier vous a vu sur scène, ça remplissait ou pas? Comment ça marchait? Parce que débarquer au festival dans un théâtre, pas avoir de nom, j'imagine pas avoir beaucoup de com, comment on fait quoi?
Alors j'ai fait une moyenne de 22 spectateurs, ce qui était une très bonne moyenne pour un premier festival, ouais. Ne me jugez pas.
Non, non.
Il devait y avoir là-dedans au moins 6 payants par soir, donc cool quand même. Et non, mais on tractait, je tractais toute la journée, on rameutait des gens, voilà, il y avait de tout, il y avait des gens qui. Évidemment, personne ne sait ce qu'il vient voir. D'ailleurs, j'ai eu. Ça restera un mystère toute ma vie, c'est que 2 soirs de suite, je vous jure que c'est vrai, j'ai eu 4 japonaises au premier rang. 2 soirs de suite, pas les mêmes.
Ah, il y a eu un effet
pas les mêmes et qui à la fin du spectacle vraiment ont applaudi hyper fort et machin et tout. Alors je sais pas si Artus ça veut dire quelque chose en japonais ou mais vraiment ça reste un
mystère.
Elles
ont ri pendant le spectacle ?
Elles ont rien compris, elles ont pas ri du tout parce que vraiment c'est les japonaises qui ne parlaient pas un mot de français et ça restera un mystère toute ma vie de pourquoi 2 soirs de suite, j'ai eu 4 japonaises au premier rang. Alors soit mon affiche évoquait quelque chose en japonais, je sais pas, c'est un mystère. Je sais pas quoi vous dire.
En tout cas, ça vous entraîne avec Laurent Ruquier pour son émission On ne demande qu'à en rire. Et vous allez jouer beaucoup dans cette émission. Vous allez rester longtemps?
Oui, je suis resté 2 ans. J'ai fait 90 sketchs, je crois.
C'est énorme.
Mais c'est pas mal. C'est pas mal, hein.
90 sketchs qui sont maintenant dans un.
Il y en avait 2 de bien.
Tiroir. Non, 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 mais est-ce qu'ils ont été réutilisés pour vous dans le One Man Show? Est-ce qu'on retrouve quelques vannes dans Duel à David et Jonathan?
Non, dans le One Man, justement, en plus à l'époque où j'étais dans l'émission, je voulais pas que les gens qui viennent voir le spectacle voient un best-of, en fait, de ce qui se faisait à la télé. Donc j'en faisais pas, ou un des fois en rappel. Voilà, mais sinon, non, globalement, je me suis jamais resservi des vannes dans le spectacle.
Simplement pour respecter la mémoire d'Anne Torres, malheureusement, elle nous a quittés en
2013. Ah ben voilà, j'avais un doute.
En 2013.
Merde, ben on l'embrasse. Donc, ben non,
du coup. Si.
Allez, vous êtes toujours sur Europe 1.
Une
c'est
pensée. Non, on a une pensée. En 2016, vous écoutiez. Bust to rhyme, break neck. Qu'est-ce d'où ça sort? Vous êtes toujours dans dance music en permanence?
Non, mais celle-là, elle est géniale.
Oui, le mec ça fait danser aussi, de toute façon.
Oui, elle fait danser, mais avec le petit stop qui est bien. Je sais pas si on va l'avoir. Stop. On l'aura pas. Mais elle est géniale cette chanson.
Il y a qu'un break dans le morceau, on savait
non,
pas.
Il y en a deux. Eh oui, excusez-moi, un petit peu de culture j'ai.
Non mais Nagui n'aime pas la musique, c'est ça. Ça sent.
Et danse avec les stars quand même. Ouais. Bureau des légendes, oui, mais danse avec les stars. Ouais. C'est ça, en 2016.
2016, oui, c'est vrai. Et je faisais les deux en même temps d'ailleurs. C'est ça qui était
ah, assez. On a eu le break.
Ah, oui, merde. Voilà.
C'est en parallèle le tournage et la participation à la compétition de TF1.
Oui, bah d'ailleurs, c'est ce qui a été assez compliqué. C'est que, pour être tout à fait honnête, que ce soit moi et les gens avec qui je travaille, on pensait très clairement que j'allais me faire virer au bout de deux semaines d'émission. Mais vraiment, sincèrement. Donc après, on avait calé le tournage du Bureau des légendes.
Alors que vous arrivez en finale.
Alors que je suis arrivé en finale. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, merde, comment on va faire? Le planning, ça va être compliqué. Du coup, je tournais le Bureau des légendes. C'est des journées de tournage, on va dire, de 9h à 19h, quoi. Et après, j'allais danser.
Et vous n'êtes pas interrogé en se disant, voilà, peut-être que cette émission...
Ah, le planning. Je vais danser.
Vous n'êtes pas demandé si cette émission de danse allait être un frein potentiel au prochain tournage du Bureau des légendes ou à d'autres rôles.
En termes d'image, est-ce que le Bureau des légendes était très content de savoir que vous étiez dans Danser avec les stars?
Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai accepté Danser avec les stars parce que je savais que j'avais le Bureau des légendes. Ah. Voilà, ça s'est fait dans ce sens-là. Je pense sincèrement qu'il n'y aurait pas eu le Bureau des légendes. Je suis pas sûr que j'aurais fait Danser avec les stars à ce moment-là.
Est-ce que la production du Bureau des légendes, non, parce qu'il avait peur de risquer son image.
Non, mais par rapport au cinéma, on va pas se mentir. Dans le cinéma, il y a des émissions comme ça qui font que derrière, pour les producteurs et les directeurs de casting, c'est un peu plus compliqué.
Oui, l'avantage, c'est que le bureau les fait inverse. Les gens qui ne font plus de cinéma, qui vont dans Danser avec les stars.
C'est ça.
Karen Morgan. Est-ce que. Est-ce que dans le Bureau des légendes, on vous a fait des vannes, des remarques sur votre participation?
Pas du tout. Pas du tout. Mais de toute façon, c'est ça qui est bien.
Finalement, ça ne nuit pas du tout à l'image de le faire, Danser avec les stars.
Ça peut nuire. Oh là là, ouais, c'est le matin. Ça peut nuire, je pense, dans certaines productions, dans certains, voilà. Après, le Bureau des légendes, l'avantage, c'est qu'Éric Rochant, le créateur du bureau, est tellement loin de la télévision. Je suis même pas sûr qu'il sache qui vous êtes, Nagui, pour vous dire à quel point.
Non, c'est pas beau,
voilà. Donc, c'est-à-dire que moi, à Arthus, je suis arrivé, il a juste vu un comédien un peu gros et c'est ce qu'il voulait.
Et c'était vos débuts, parce que j'imagine que la question se poserait différemment aujourd'hui. Parce que ça vous a fait gagner en notoriété aussi, Danse avec les stars,
ouais,
très très fort. Maintenant, si on devait vous retrouver dans un rôle plus développé dans le Bureau des légendes, est-ce que ce serait pas compliqué par rapport à Canal, cette fois-ci pas tant Rochon?
Je sais pas, franchement je pense pas, parce que à l'époque où j'ai rejoint le bureau, j'étais déjà très présent avec Arthur sur TF1, j'étais déjà très très connoté TF1.
D'accord.
Je pense pas, et je pense que pour le coup, j'ai trouvé ça très intelligent de leur part. Moi, quand je suis allé au casting, j'ai eu peur.
C'est peut-être bien qu'il y ait plus d'étiquettes justement.
Ouais, c'est bien,
c'est le but.
Que ce soit de faire du stand-up, de faire des émissions de divertissement ou des jeux de télé crochet ou de télé-réalité, je sais pas comment on peut les qualifier, ou de faire de la fiction. Tom.
Bah, non, juste, il est fabuleux dans la série. Donc il n'y a pas de débat. Moi, la question que je voulais, c'était pas au niveau de l'image, est-ce que ça peut nuire, mais est-ce que quand tu tournais de 9h à 19h le Bureau des légendes et que t'allais danser, tu t'es dit, merde, je suis en train de mettre en péril mon propre tournage, et parce qu'il faut bosser pour le lendemain les textes, et en même temps
être fatigué, quoi, tout simplement.
Ouais. Ouais, mais ça va, je suis pas un gros
Ah, il y a 20 mois.
Très bonne vanne.
Applaudissements.
Ça, c'est pour Anne Torres.
T'as honte un peu, Nagui, t'as honte un peu.
Non, elle est bien.
Si, il est érosé.
Il est en vacances tous les jours, le gars. C'est le mec le plus bronzé de Paris.
C'est bien, t'es humain, Nagui.
Mais au contraire, moi je fais truc, moi je suis efficace dans les trucs. J'ai besoin de... Je ne prends pas de drogue, voilà, je le dis, mais j'ai besoin d'avoir des journées...
chargées.
Des journées de 20h et de dormir 4h.
Et la danse, moi je vous ai pas vu dans l'émission. Donc je sais pas ce que ça donne.
Il danse bien, il bouge bien.
Ouais.
Si. Il se déplace.
Si.
Pour arriver en finale, j'imagine qu'il devait y avoir des compétiteurs en face.
Justement, non. c'est vraiment.
Ah oui, c'était pas.
Ah oui, non, non.
Ouais.
C'est...
Okay. Ah, y a pas Marthe Mercadier tous les ans.
qui gagne cette année-là?
Laurent Messeret.
Laurent Messeret.
Voilà.
Dans avec les stars.
Marie Tarquant nous a rejoint. Bonjour Marie.
Marie Tarquant, oui.
C'est, oh. Ah, c'est un U.
Ah, c'est un U.
Pardon.
Oui.
C'était
allez, on la refait. 3-4.
Je peux même pas dire que c'est mal écrit à la main, parce que c'est mal tapé à la machine. Pardon. Marie Turcan, vous êtes rédactrice en chef à Numérama.
Ouais.
Non.
Presque. Numérama, du coup.
Non, j'essaie de continuer.
Allez.
Allez. Qui est un site web d'actualité sur l'informatique et le numérique. Vous aminez.
Vous aminez.
Cette émission,
on va la donner confiance. Allez, ramène mon Nagui.
Allez, super.
Ramène mon Nagui.
Au montage, elle sera nickel.
Heureusement que c'est une maquette. Hein,
si on fait deux ans de moins que Drucker, c'est tout.
T'as 60 ans de carrière et quand même, il reste.
En ce moment, sur Netflix, et il n'y en a pas beaucoup, Artus fait partie de ceux qui sont sur Netflix avec une émission qui s'appelle C'est du gâteau. C'est depuis le 25 octobre dernier, donc la semaine dernière. Le concept, c'est un concours culinaire dans lequel trois cuisiniers amateurs, très 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 amateurs, tentent de recréer des pâtisseries complètement folles avec 5000 euros à gagner. Tom, tu as fait partie des invités.
Oui, tout
on
à
a
fait.
Bien rigolé.
Ah oui, on a ri. On a beaucoup
et c'est
ri.
Très drôle.
Mais tu étais dans les invités, tu devais tenter de refaire une recette, c'est ça?
Non, il n'y a pas de gens connus qui font des recettes, là. Je faisais partie du jury, et en gros, oui, alors, sur un autre ton, parce que celle-là, celle-là de doigts, vous allez la goûter.
Mais il est connu.
Non, mais je fais du 45, il n'y a pas de problème.
C'est ça,
non, mais en gros, c'est un concept américain qui cartonne aux États-Unis. C'est des spécialistes des cupcakes, des wedding cakes, et en France, ils se sont dit, on n'a pas trop de spécialistes rigolos qui font des gâteaux, donc on va mettre des humoristes quasiment tout le temps, je me trompe pas.
Oui, il y a un invité. Non, pour le coup, même sur la version américaine, il y a la présentatrice et le chef Torres qui est là. Et donc moi, là, j'ai Noémie Ognia qui représente quoi non, Torres, non, ah mais non, merde. Non. Ben oui, il s'appelle Torres. Ben je suis désolé.
Arrêtez,
je suis désolé.
Non, on va pas faire la journée là-dessus.
Mais il s'appelle Torres.
Oui, c'est vrai, Jacques Torres, qui est un chocolatier.
Mais on va pas souligner.
Ben oui, mais bon, c'est ben oui. Mais...
Eh ben quoi.
Donc. Donc,
c'est pas moi,
ils sont
hein.
Voilà. Non. Bref, pâtissier et Netflix. Allez.
Alors parlons-nous de Netflix.
Patrick.
À vous Marie.
Non Marie, à propos de Netflix, c'est vrai qu'on a l'image de cette plateforme comme étant uniquement fait pour du cinéma à volonté, des fictions en production et en originalité, mais rarement en émission.
Oui, c'est leur nouveau créneau, c'est un peu de se diversifier pour devenir une espèce de supermarché géant de tout ce qu'on peut faire en termes de contenu visionnable. Donc
quel est leur intérêt? Parce qu'ils ont déjà le succès.
C'est que vous regardiez, c'est qu'il y a encore plus d'abonnés. Aujourd'hui, il y en a 6 millions en France, donc ça va continuer à augmenter. Ils veulent vous garder aussi, donc en gros, en ayant une multitude de contenus, ils réussissent à attraper des personnes différentes. Il y en a qui aimeront la télé-réalité, il y en a qui aimeront le cinéma d'auteur, il y en a qui aimeront les grosses séries populaire, et en ayant tout ça, ils vont réussir du coup à fleurir, et c'est ce qui se passe.
Donc comment redéfinir le produit Netflix? C'est plus une plateforme avec des films, du cinéma à volonté, de la fiction, et on va dire maintenant c'est une nouvelle
une
forme
définition.
De consommer de la télé. Non, justement avec des émissions comme celle-là, voire d'autres, j'imagine.
C'est une chaîne où on peut pas regarder en direct.
C'est à Marie que je pose la question.
Pardon, non, mais vous me dites, mais nous, moi je suis souhaitant
en chef. C'est un mec connu, fais gaffe.
Justement, c'est pas une chaîne parce que vous avez le choix de regarder ce que vous voulez.
Mauvaise réponse, Tom, tu sors.
Ouais. C'est pas mon émission.
Ouais. Reste, Tom.
Donc c'est ça, la force c'est de dire on a le choix de regarder ce que l'on veut et c'est plus la chaîne qui décide de ce que l'on veut.
Oui, c'est difficile, il n'y a pas de ligne éditoriale de Netflix en fait. Donc c'est pour ça quand on dit ils sont en train de devenir très mainstream ou ils sont trop populaires ou pas assez. En fait, non, ils essayent juste de financer énormément de contenus différents et donc ils vont aller essayer d'aller aux Oscars avec le prochain Scorsese. Ouais. Et en même temps, ils produisent des émissions plus divertissantes.
Donc ils se mettent en position d'être aussi des producteurs. Et essentiellement des producteurs, pas uniquement des diffuseurs.
Oui, ça c'est parce qu'en fait énormément d'autres plateformes comme Netflix vont se lancer, donc il va y avoir Disney, il va y avoir Apple, et donc en fait ce qui va les différencier.
Il y a
Apple depuis hier.
Ouais, Amazon.
Pour se différencier, tout le monde ne peut pas avoir Friends sur sa propre plateforme, donc en fait eux ils doivent créer leur propre contenu pour avoir des choses originales qui font que vous allez voir que Stranger Things sur Netflix. Si vous voulez voir Stranger Things sur Apple, vous pouvez pas, donc vous êtes obligé de payer l'abonnement Netflix. Or, s'il y avait pas ces contenus originaux propres à chaque plateforme, ils auraient pas d'avantage concurrentiel sur les autres, et donc il y aurait pas de raison à y aller.
Il y a combien d'abonnés payants pour Netflix dans le monde ?
Il y en a 158 millions aujourd'hui payants, sans compter les gratuits, et en fait, ils vont viser les 200 millions d'ici quelques années.
Et c'est un chiffre qu'ils visaient eux, ou alors c'est un succès incroyable et ils dépassent tout ce qu'ils pouvaient espérer?
En fait, c'est leur stratégie. Ils sont leaders depuis très longtemps, donc globalement, personne n'arrivera à les atteindre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir le plus d'abonnés payants possible. Ça veut dire le plus de revenus possible, et donc de continuer à créer énormément, énormément de programmes. Donc c'est une machine qui s'auto-alimente, en fait,
ouais,
et qui permet d'avoir les autres.
Enfin, c'est une course sans fin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus décevoir
l'abonné. Votre argent et leur course sans fin s'arrête à votre porte-monnaie, quoi. Enfin, il y a un moment où...
Non, la course sans fin s'arrête au moment où on se désabonne parce qu'on n'a plus vraiment le produit que l'on espérait avoir.
Oui, mais maintenant, il y a une nouvelle émission avec Artus. Donc du coup, à chaque fois, vous allez avoir envie de continuer.
J'entends, j'ai le casque.
C'est ça.
Avec ça, j'entends.
Et puis c'est aussi créer du contenu qui est distingué pour chaque pays, parce que finalement, si c'est ce programme que présente Artus est adapté d'un programme américain, c'est se dire il faut les décliner donc selon les pays, donc c'est aussi un coup. Comment ils vous ont abordé, Netflix, Artus?
Moi, c'est la production française qui s'occupe de ça, qui est Fremantle sur ce projet-là, qui m'a contacté. Voilà. Après, évidemment, Netflix valide tout. Je sais qu'on était 2-3 sur le projet. Et comme ils aiment les choses de qualité, ils m'ont choisi. Mais en tout cas, non, mais c'est marrant parce que vous dites c'est des produits français, tout ça. Mais moi, j'ai reçu plein de messages sur Instagram, des messages en espagnol, des messages en anglais, parce qu'en fait, c'est l'avantage de cette plateforme, c'est qu'elle est complètement ouverte à tout le monde. Et du coup, voilà, qui disent j'ai regardé.
Sauf que la différence, pardon, c'est que quand on est
là, vous m'avez coupé la parole.
Oui, d'accord. Oui, d'accord. C'est quand on est à l'étranger, on peut pas regarder les programmes qui sont faits en France.
Moi, Netflix. Ben bien sûr que si. Moi, c'est du gâteau. Vous pouvez le regarder. Mais bien sûr que si. C'est du gâteau. L'émission que j'ai présentée, moi, vous pouvez la regarder aux États-Unis.
Ça marche pas sur les. Par exemple, si tu fais Arte à l'étranger, t'auras pas accès. Non. Enfin, moi, je parle des documentaires.
Il y a quand même des pays où vous pointez avec. Allez-y, Marie. On est d'accord. Il y a des pays où vous pointez avec Netflix et là, vous avez.
Oui, là, c'est différent. C'est parce que c'est Netflix. Quand Netflix produit un contenu, ça veut dire qu'il peut le diffuser partout.
Oui,
donc là, l'émission a été produite par Netflix.
D'accord.
Donc c'est pour ça. En revanche,
pour les films ou les séries.
S'ils ont acheté les droits de Friends en France, ils les ont pas ailleurs en Allemagne, par exemple. Donc en Allemagne, vous n'allez pas pouvoir les regarder. C'est pour ça que le catalogue varie. Mais il y a les séries originales de Netflix qui sont les mêmes dans tous les pays.
Est-ce que on dit souvent que c'est une menace pour le cinéma Netflix? C'est juste une évolution plus qu'une révolution?
Si vous demandez aux exploitants de cinéma, ils vont pas très très contents, quoi. Mais si vous demandez aux gens qui ont pas envie de payer 12 euros pour aller voir un film à chaque fois, ils vont être plus contents. Donc ça dépend encore une fois de ce que vous cherchez. La bataille des exploitants contre Netflix, c'est un peu un micro sujet. Eux, ils sont un peu au-delà de ça, dans le jeu en tout cas, avec le fait qu'ils ont 158 millions d'abonnés, ça veut dire qu'en fait eux, ils peuvent juste à chaque critique dire en fait nous on a 158 millions d'abonnés, c'est qui ça. Nous payent chaque mois pour des choses qu'on fait, et en plus ils aiment bien ce qu'on fait.
Ouais. Et vous dites 6 millions en France, hein, de...
Il y en a, ouais, ils ont confirmé 6 millions il y a pas longtemps.
Artus?
Oui. Non mais en plus moi ce qui est bien, moi c'est pour ça que j'ai accepté aussi de travailler avec eux. On m'a proposé plusieurs émissions sur à la télévision française dans le PAF et que j'ai refusé parce que voilà, aujourd'hui malheureusement on est un petit peu formaté, il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de dire, pas le droit de faire. Et là ce qui est bien avec Netflix, c'est que
pas de censure.
Il y a moins de censure. Donc on retrouve un petit peu ce qu'on va dire l'esprit canal d'il y a quelques années où on peut se permettre beaucoup plus de choses.
Marie, vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'il n'y ait pas de censure?
Oui, c'est long. Enfin après je pense pas que toutes les vannes passent, quoi, mais
non, mais en tout cas il y a une certaine modération. Beaucoup plus qui passe. Là par exemple nous c'est bête, mais on a fait une set, je sais pas si c'était avec toi où on boit des shots de vodka pendant l'émission et voilà, et on joue clairement, on boit 2-3 shots,
comme
on est
sur
un peu
YouTube, ça passe sur YouTube,
aujourd'hui ça passe plus du tout en télé.
Et on n'a pas besoin de dire attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Ce qui est vrai quand même.
Non.
Mais si, l'abus, oui.
C'est lui qui dit ça.
L'avenir de Netflix, les prochains gros coups annoncés ou attendus?
Bah, j'espère qu'il y aura une saison 2 de cette émission, mais il y aura le film de Scorsese qui va, The Irishman, qui sort en novembre là, et ils vont viser les Oscars avec, donc je pense que ça va être ça la fin d'année.
C'est gentil de m'avoir mis sur le même niveau. Ouais.
Que Scorsese.
Normalement, il y a le Scorsese et c'est du gâteau, la saison 2.
Voilà. Et la concurrence directe de Netflix, c'est donc Amazon, Apple, il y a la plateforme qui réunit justement TF1, France Télévisions et M6.
Salto.
On va l'attendre un peu, elle. Mais je ne pense pas qu'elle soit une réelle concurrente. Et je ne pense même pas que les groupes... les groupes eux-mêmes en ont assez conscience. Ils sont arrivés trop tard et pas avec trop de barrières, qui ne sont pas forcément de leur fait d'ailleurs. Donc il n'y a pas énormément de concurrence, il va y avoir d'autres acteurs qui vont essayer de prendre les parts de marché, genre Apple, Disney, tout ça.
Marie Turcan, rédactrice en chef de Numérama. Merci, Marie, d'être venue à ce micro. Bonjour, Tanguy Passion.
Bonjour.
Bonjour. Vous allez nous parler de l'affaire Moulin.
Oui, c'est un ministre qui, en 79, a été retrouvé noyé dans un étang dans 50 cm d'eau avec des traces de coups sur le corps. Suicide très particulier. Hein, juste avant de mourir, il aurait crié « Lâchez-moi, enfoiré !» puisqu'il se parlait à lui-même en se vouvoyant. Et aujourd'hui, 14 journalistes demandent à Macron de déclassifier le dossier qu'on sache enfin qui a suicidé Boulin.
On en parlera, ça sera après les infos de midi. Bienvenue si vous nous rejoignez avec Léna Kadobinovic.
Bonjour à tous.
Marina Rollman.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Tom Villa.
Bonjour.
Tanguy Passureau.
Oui.
Et notre invité Artus. Duel à David et Jonathan, cette pièce est en tournée. D'ailleurs, c'est une pièce, mais vous jouez le côté quand même, je suis la vedette de la pièce. Vous aimez bien jouer à
ça.
Ouais, sur les applaudissements au début.
Ah oui, parce que les soirs où vous étiez là. Mais il n'y a pas toujours des applaudissements. C'est qu'en fait, des fois, quand le rideau s'ouvre, comme il y a le narrateur, Julien qui fait le narrateur, le rideau s'ouvre et
il est moins applaudi que vous par moment.
Ben oui, mais du coup, on en joue. Je fais des petits gestes amicaux.
C'est ça.
Mais non, je trouve que pour le coup, on est bien répartis.
Vous êtes un peu le patron sur scène. C'est-à-dire que quand vous vous moquez des mauvaises impros des autres, c'est quand même souvent vous qui vous moquez.
Et d'ailleurs, c'est dit, c'est toi le metteur en scène.
C'est vrai. Mais non, mais de toute façon, oui, on va pas se mentir, c'est moi le patron, je fais ce que je veux, voilà, c'est tout.
Un western complètement à l'ouest, c'est la baseline de ce délire. Il y a pas un moment où vous pouvez vous détendre en disant bon ben là, c'est le moment.
Ça c'est une bonne promo, ça. Il y a pas un moment où tu peux te détendre en regardant.
Vous êtes tendu, les gars.
C'est plaisir d'offrir.
C'est tendu,
déconcentré.
C'est tendu en permanence et c'est drôle en permanence. J'ai même le sentiment que par fonction de votre propre humeur, Artus, sur scène, dès que vous sentez qu'il y a, une petite faiblesse, vous ressentez le besoin de vite rebondir, de réagir, de garder le tempo en fait. Puisque c'est votre truc quand même, le tempo. On vous appelle le tempo dans le métier.
On m'appelle le tempo et la grosse caisse aussi. On le sait, les gens autour de moi qui font de la scène aussi le savent. Il y a des soirs où c'est magique, il y a des soirs où on ne sait pas pourquoi c'est un peu moins magique, ça prend un peu moins.
Et là, on se pose la question de savoir est-ce que le public est bon ou pas, ou de savoir si soi-même on n'est pas
ça,
bon.
Les humoristes qui disent le public n'était pas bon ce soir. Je l'ai entendu 1000 fois sur des plateaux, ils sont pas bien ce soir. Un mec remet en question tes textes ou tes trucs, mais c'est pas le public qui est pas bien. Il peut pas y avoir 200 personnes pas bien, ils ne sont pas donné rendez-vous. Vous êtes pas bien vous aussi, venez, on va se voir.
on peut pas se dire si lorsqu'une même vanne a extrêmement bien fonctionné la veille et fonctionnera bien le lendemain, et là d'un coup ça ne marche pas. Pourquoi?
C'est parce que on l'a sûrement moins bien vendu, parce que on a peut-être laissé la demi-seconde de trop ou pas assez, ou le rythme,
ou qu'on y croit moins.
Y croit moins à ce moment-là, qu'on est moins dans le. De toute façon, on le sent. Il y a des fois, on a la connerie où nous, le spectacle, il fait entre 1h20 et 2h.
Oui.
C'est précis,
et pour le même prix, hein.
Donc il y a des fois où il va faire 1h20 et des fois il va faire 2h parce qu'on a la connerie et que voilà.
On a la connerie, j'aime bien cette formule là. En tout cas, faut tout laisser au vestiaire, c'est qu'il faut y aller sans aucune arrière-pensée, aucun préjugé, et se laisser porter par ces duels à David et Jonathan à l'Apollo Théâtre. Il y a déjà eu pratiquement toutes les villes de France, où ça va continuer aussi en 2020. Vous allez partir en tournée, hein,
ça. On repart début février, on fait une dernière
janvier,
tournée.
En janvier, monsieur.
Début janvier, enfin, fin faites janvier.
Ça commence le 10 janvier ça commence.
Le 10 janvier alors, du coup. Faisons ça, très bien. 10 janvier, attendez, je regarde.
Oui,
c'est bon pour moi.
Enfin, faites gaffe quand même, allez-y en février, il n'y sera pas en janvier, je le sens pas moi.
Une tournée qui se poursuivra jusqu'en juin, donc c'est vraiment
super.
On va vous donner les dates, hein, pour être sûr que vous y soyez.
Mais c'est trop loin, j'ai une visibilité d'une semaine, moi.
Voici Tanguy Passion. Tanguy, vous nous emmenez en 79.
Oui, et là, je pense à l'auditeur de France Inter, ce petit être fragile qui déjà a son t-shirt Benoît Hamon 2022, qui se disait chouette, hier soir Vartus, un petit jeune, hein, ce qui est faux parce qu'il a déjà 32 ans, ce vieux couillon, et qui réalise atterré que je repars 40 ans en arrière. Oui, je vais vous parler de Robert Boulin, qui en 79 était ministre du Travail, parce qu'il y en avait encore. Aujourd'hui, la ministre du Travail, Madame Pénicaud, a moins de bons chiffres à montrer que les bébés brunes quand on parle de vente d'albums. Robert Boulin travaillait sous Giscard d'Estaing, ce qui est logique parce qu'il faisait 1m89. Hein, avec l'âge, il s'est ratatiné, il ne fait plus que 14 cm. Hein, son épouse s'en sert comme porte-clé. Et le 30 octobre 79, Boulin est retrouvé mort dans un étang en forêt de Rambouillet. Un suicide, dit la presse. Comme Bérégovoy voit plus tard, qui s'est suicidé le long d'un chemin de halage. Dès qu'on est à la campagne, on se suicide. La fois où je suis allé au Center Park en Sologne, quand un mec mettait la tête sous l'eau, je criais au maître nageur « Bouge-toi, bonhomme !» Il y a un désespéré qui est en train d'avaler toute l'urine des autres, il va crever. Donc Boulin suicide. Pourquoi pense-t-on ça? Parce qu'il a alors une réputation d'intégrité. Mot jamais proposé en 50 ans de partie de Scrabble chez les Balkany. Et que là, en 79, il est mis en cause dans un scandale immobilier dans le Var. Ce que dans le Var, on appelle simplement vente d'un bien. Là, il va au club de la presse d'Europe 1, une radio qui existait à l'époque, et il dit « Moi, je suis transparent, mais il y a des choses que je ne peux pas dire ici. » Et Gérard Carrérou, un monsieur qui existait à l'époque, dit « Boulin, après l'interview, nous a dit « La campagne de dénigrement contre moi est orchestrée par des gens du RPR, un parti qui existait à l'époque. » Bref, il était à deux doigts, comme on dit chez les tourneurs fraiseurs maladroits, de balancer des noms. Or, le RPR à l'époque, c'était pas Christian Jacob avec ses 10 derniers fans désocialisés, c'était puissant. Et Boulin était sur le point d'être nommé Premier ministre. Une place que tout le monde voulait, comme petit ami de Clara Luciani chez les coiffeurs qui aiment les franges aujourd'hui. En 2019, Macron, il doit respecter les directives européennes, il dit à Édouard Philippe Doudou, à part faire un bracelet brésilien avec tes 3 derniers cheveux, j'ai rien à te faire faire, j'ai pas la main. Mais en 79, le Premier ministre, c'est le King. Hein, quand il va boire un verre au palace, les dealers lui font une haie d'honneur. Donc Robert Boulin gêne. Et là, on le retrouve en forêt noyé dans, tenez-vous bien, 50 cm d'eau. Et à l'époque, on dit, c'est un suicide. Si on valide cette théorie, le ministre peut aussi se suicider dans le pédiluve de l'Aquaboulevard, hein, la piscine gonflable des gosses, avec on fait mourir tout un gouvernement. Autre fait étrange, Raymond Barre, hein, l'homme qui a vécu 83 ans, dont 82 endormi. Premier ministre est prévenu à 2h du matin de la mort de Boulin, alors que le corps est retrouvé à 8h30. Donc à moins qu'Elisabeth Tessier l'ait appelé pour lui refiler la seule prévision réussie de toute sa carrière, ça paraît bizarre.
Donc vous voulez dire que le ministre aurait été assassiné?
Bon, alors c'est pas moi qui le dis. En enquête, je suis nul. Le Cluedo, j'ai même perdu contre le chat de ma tante. Non, c'est la fille de Robert Boulin qui a fait la semaine dernière une reconstitution. Hein. Ils ont pris un homme tronc venant de faire un AVC, l'ont mis dans 50 cm d'eau. Même lui n'a pas réussi à se noyer. Et aussi des journalistes, hein, qui ont écrit à Emmanuel Macron pour lui demander d'ouvrir les archives des services secrets. Ils ne le mettent pas en cause, lui. Hein, en 79, il avait 1 an et demi. Il jouait avec son zizi et tirait les poils du chien. Hein, une fois, il a fait l'inverse et a découvert la notion de plaisir. Non, juste pour qu'on sache enfin qui sont les pourris qui ont liquidé Boulin. 40 ans qu'on cherche. Ça bouge moins qu'un épisode de Derrick en 87. Et ces journalistes disent aussi que la CIA aurait un dossier sur l'affaire. Eux, ils ont un dossier sur tout. Hein, quand Ruquier, dans Les Enfants de la télé, sort à Jeanne Masse les images de sa première télé. Faut pas chercher, c'est la CIA qui a balancé. Ils savent que Xavier Dupont de Ligonnès tient un petit resto routier en Ardèche et que personne dans le coin ne le balance parce que le samedi, il fait entrée plat dessert à 6 euros. Alors, à noter que dans les 14 journalistes, hein, ils sont 14, qui demandent à Macron de déclassifier le truc, il y a 13 personnes normales, mais aussi Élise Lucet, la terreur de la 2, qui pratique le safari sur les patrons du CAC 40. Récemment, elle a harcelé le patron de Facebook France. Pour se venger, ils lui ont effacé tous ses scores de Candy Crush qu'elle avait partagés depuis 2012. Donc si moi j'étais Macron, j'appellerais de suite Castaner à l'intérieur pour lui dire « Cricri, va chercher qui a tué Boulin, placard 24, deuxième casier à droite, la chemise assassin, parce que j'entends Lucet qui approche, elle va me défoncer !» Il faut se dépêcher parce qu'en 79, on a prélevé des organes de Boulin pouvant prouver qu'il n'était pas mort noyé. Les bocaux qui les contenaient ont disparu. Ouais, donc à beaucoup. Moins qu'un non-voyant à l'institut médico-légal, pensant qu'il s'agissait de confiture bonne maman, les ait piqués avant de tout étaler sur des biscottes, on n'est pas à l'abri qu'un ami d'un ami du fils d'un des assassins de Boulin fasse avec le dossier des confettis pour l'anniversaire de sa nièce. Personne ne se noie dans 50 cm d'eau. Benoît Poulvord vous dira même que 50 cm d'eau, ça n'existe pas. Maintenant, monsieur Macron, à vous de voir. Préférez-vous salir la réputation de 2-3 responsables politiques qui ont tué en 79 où vous tapez en bas de chez vous tous les matins Élise Lucet en 2019.
Merci Tanguy Passion.
La bande originale, Nagui sur France Inter.
Et on te retrouve Tanguy ce samedi soir à Château Renard, c'est à côté d'Avignon.
Oui.
Avant de continuer de parler de la pièce d'Artus, duel à David et Jonathan, quoi. Encore des questions, mais cette fois-ci, Arthur, vous allez pouvoir essayer d'y répondre. Si je vous dis Jamel Debbouze, Angèle et Rémi Gaillard, c'est un trio, mais un trio de quel genre de classement?
De
sur les réseaux sociaux.
De préféré YouTube, de
préféré des jeunes.
Ça n'a pas un rapport avec les réseaux sociaux, mais ça a un rapport avec Internet.
Le nombre d'abonnés?
Non. Jamel Debbouze, Angèle, Rémi Gaillard.
Les vidéos les plus vues, on l'a dit.
Non.
Ils s'en sont tous pris à quelqu'un?
Alors, indirectement, eux n'y sont pour rien en tout cas.
Ils ont été piratés.
Ils sont classés. Ouais. Alors, ils sont dans un top. Ça a un rapport avec.
Tu peux rappeler les noms?
Jamel et Rémi Gaillard. C'est les trois premiers d'un classement qui peut amener une forme de piratage.
Les comptes qui sont en parallèle à leur nom, un truc comme ça?
Les vidéos YouTube les plus vues?
Non, c'est pas eux qui ont plus de faux, de comptes fake?
Non.
Bon.
On est sec là. C'est le numéro 1, 2, 3 chez Copy Comics?
Non. C'est en fait des recherches qui peuvent vous apporter des virus.
Si vous tapez leur nom,
c'est
contagieux.
Dangereuses, exactement. Des recherches dangereuses. C'est McAfee, je crois, un truc de.
Antivirus.
Antivirus.
Par contre, attention, quand vous tapez texte, vous risquez de voir ces sketchs. Hein.
Ils chantent.
Vous êtes beaucoup présent sur les réseaux, Artus ou pas?
Non.
Merci.
Non, je suis pas très geek.
Vous êtes pas très geek. Quelle grande comédie musicale au cinéma sortie fin des années 70 va devenir une série?
Grise.
Fame. Sur une plateforme, pardon?
Grise.
Exactement.
Grise. Wow. Génial.
Excellent.
Êtes-vous accro aux séries Artus? Que ce soit ceux de je sais que vous êtes très Netflix boy maintenant, mais il n'y a pas que ça.
Et Canal Boy?
Oui, non, tout. Ouais, non, je suis très très série et très comédie musicale surtout.
Ok, quelle série
en ce moment
dépendant?
Peaky Blinders. L'univers Peaky Blinders. D'ailleurs, il y a peut-être quelque chose qui va arriver début décembre qui va être un petit rappel de Peaky Blinders. Voilà, je spoil, je mets des trucs comme ça.
Un petit rappel.
Peut-être quelque chose qui va vous faire penser à Peaky Blinders.
Peaky Blinders.
Vous verrez, mais qui va avoir un peu de gueule.
Une parodie avec.
Oh là là, ça tease.
Genre, non mais genre une parodie.
Comme dirait Poulvord, ça marche aussi.
Un sketch parodie comme a pu faire Foresti pour La Servante Écarlate ou les trucs comme ça.
Non, je dis pas.
Non mais donnez-nous un petit truc qu'on comprenne quoi.
Non mais je vais
vous allez jouer
peut-être dedans. Faire la couverture d'un très beau magazine en un peu esprit Peaky Blinders.
Ouais.
Je vais me raser la tête et on va faire ça bien.
D'accord.
Oui, super.
Voilà. D'accord. Quel est le point commun entre Charlotte Gainsbourg, Mimi Mati, Gérard Depardieu et Sigourney Weaver?
Camoulox?
Ils sont blonds.
Non.
L'alcoolémie?
Non.
Ils vont jouer dans 10%, non?
Exactement.
Ils ont?
Ils sont dans 10%. Ah, c'est en cas de 10%. Ah. C'est classe, non? Charlotte Gainsbourg, Mimi Mati, Gérard Depardieu, Sigourney Weaver.
Et
Weber,
c'est classe, surtout
classe.
Que Mimi Mati, c'est 10% de Depardieu.
C'est vrai, en plus, ça doit être vrai.
Mimi Mati va jouer dans 10% de Depardieu.
Okay. Prochaine question.
Est-ce que ce genre de guest, parce que maintenant ça devient un must d'être dans les guests de 10%. Ça vous
amuse? Ah ouais, j'aimerais bien, ouais. Mais comme il faut jouer son propre rôle, je pense que pour l'instant je suis pas au niveau de Mimi, enfin je suis pas au niveau de Gérard Depardieu.
Est-ce que vous allez écrire votre propre série? Parce que j'imagine qu'on vous propose de faire ce genre de choses aussi, non?
Oui, mais ça prend beaucoup de temps et pour l'instant c'est pas dans les tuyaux.
Mais il y a l'envie.
Il y a l'envie, ouais. Il y a toujours l'envie.
Quel est le point commun entre TF1 et Justin Timberlake?
C'était mieux avant.
Non.
il va faire Danser avec les Stars.
Non.
Le point commun entre une chaîne.
Ah si, si, peut-être. Est-ce que The Mask? L'émission Le Masque?
Mask Singer.
Exactement.
Ouais. Il va chanter. Attends,
mais alors, il l'a fait.
Ah non, c'est pas Mask. Pardon, ça n'a rien à voir. C'est pas. Non, je me suis.
Bon, on remet la nappe du coup.
Parce que Mask Singer, c'est là.
Energy Music Awards.
La musique préférée, là, je sais pas quoi.
Non, enfin, non, bah, écoute, c'est un peu ça. C'est, ouais. C'est pas lui qui a créé Masked Singer, mais en tout cas, il a créé un format télé qui a été racheté par TF1 et que, qui est coproduit par TF1. C'est un mélange entre la roue de la fortune et le wall, le mur qu'avait fait un jeu télé que Justin Timberlake aurait co-créé et que TF1 rachète.
Voilà. Ça va être bien, ça.
C'est prometteur.
Il y a deux possibilités.
Entre la roue de la fortune. Ah, et tu lances, tu balances une lettre et on la jette sur le mur et on sait pas trop.
Il faut que tu chantes les paroles.
Et tu dois regarder où elle tombe.
Est-ce que, pour en venir à duel à David et Jonathan, est-ce que le grand plaisir pour vous, au-delà de jouer, au-delà de faire rire le public et de faire réagir, c'est de vous amuser vous aussi sur scène tous les cinq et de vous piéger, je sais pas tout à l'heure qui a évoqué ça, je crois que c'est toi, Leïla, de chercher à faire marrer aussi les autres en ne faisant pas les mêmes impros.
Évidemment, c'est l'ADN de cette pièce. Moi, c'est simple, je me lasse très vite de tout. Et cette pièce, ça fait 3 ans qu'on la joue et tous les soirs, je suis excité d'y aller. J'ai qu'une envie. Là, vous voyez, on est lundi, on joue jeudi. Il y a 3 jours où je suis comme un gamin à me dire, jeudi, je vois les copains et on joue au Cowboy. Et non, mais c'est vrai.
C'est cool.
Mais c'est vraiment ça.
Ça veut dire qu'après après la tournée en région qui finit fin juin, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que
beaucoup
ça va...
de suicides dans cette émission.
On avait oublié.
Ah, pas moi.
Bon, on vous retrouvera dans le film Docteur, c'est ça, le 11 décembre prochain?
Oui, alors j'ai une toute petite apparition dans Docteur.
Je sais pas.
Mais oui, j'y suis en effet.
D'accord, aux côtés de Michel Blanc. Oui. Et vous serez à l'affiche de Brutus contre César.
Oui.
Ça aussi.
Là, j'y suis un peu plus.
D'accord. Voilà. Le film réalisé par Kairon avec Thierry Lhermitte, Gérard Darmon, Ramzi Bedia, vous y faites quoi?
Je fais Spartacus.
Classe. Et Guillermo aussi dans le projet,
ouais,
je crois.
On s'en fout.
Guillermo Guise.
Il est pas intéressant. Et c'est moi, on parle de moi là.
Et la saison 5 du Bureau des Légendes, elle arrive quand?
Elle arrive normalement en mai, je crois, mais on n'a pas vraiment de date. Mais ça va être une belle saison puisque les deux derniers épisodes ont été réalisés par un beau réalisateur, voilà, qui s'appelle Jacques Audiard.
Ah, la classe.
Ce qui est pas, voilà. Donc ça va être une belle saison, je pense.
Et il y a également Pourri Gâté, un film où on vous retrouve aux côtés de Gérard Jugnot.
Oui, ça, on vient de finir le tournage, là, on a terminé.
N'arrêtez pas, quoi.
Il y a quelques semaines. J'en ai fait 7 cette année, ça fait beaucoup.
Ah ouais,
j'ai fait 7.
Il y a le sens de la famille aussi.
Il y a le sens de la famille aussi, actuellement, que je suis en train de tourner encore. Avec,
là maintenant
ouais, avec Alexandra Lamy et Franck Dubosc.
Waouh, voilà. Vous n'arrêtez pas.
Non, et là j'ai la saison 7 de Peaky Blinders que je fais.
je suis crevé rien que de l'entendre. Ouais.
Je dois aller à la Maison Blanche, je sais pas, il y a une histoire de mur entre le Mexique et... Enfin voilà, j'ai des trucs à gérer.
Ça n'enlève en rien, en tout cas, à la fraîcheur de la voir et de le retrouver sur scène dans Duel à David et Jonathan. On parle de fraîcheur. C'est délicat d'enchaîner.
Sans transition.
Quel ordre. C'est qu'on va pas arriver. Bon, ben après la réunion à Mayotte, ça y est, il a trouvé une nouvelle destination pour éviter les grévistes. Emmanuel Macron est en Chine. Tranquille Manu, il met 8000 km entre lui et la CGT. Le gars préfère aller à la foire des importations à Shanghai plutôt que d'affronter les cheminots. Président part avec Moumoun faire le VRP chez les Chinois. Moumoun, mais pas que. Il emmène aussi, parce que c'est également un voyage culturel, il emmène Guillaume Canet. Franchement, pour représenter la culture française, il aurait pu taper plus fort. Les Chinois, ils s'en foutent de Guillaume Canet. Il aurait dû prendre Nagui.
Oui, bien sûr.
Nagui en Chine, il te fait un carton. Non, parce que sérieusement, vous serez tous d'accord avec moi. Nagui, il a une grande force. Les gens le trouvent sympa. Et c'est vrai que comme ça, quand on le regarde, il est souriant, ça rassure. Il y a une petite étincelle de malice dans le regard, et ça amuse. On a envie de lui faire confiance. Alors bien sûr, moi qui le connais...
Tu sais que non.
Je sais. Mais le Chinois, non. Le Chinois, il sait pas. Il sait pas que toute cette bonhomie qui n'est que la face émergée d'un iceberg qui en réalité est composé à 90% de vices et de turpitudes. En plus de la culture, il y a l'aspect commercial, bien sûr, hyper important pour ce genre de voyage, l'aspect commercial. En plus de Guillaume Canet, une quarantaine de chefs d'entreprise accompagnent le président. Toutes les industries, ou presque, sont représentées. Et là, c'est pas gagné, les amis. Il faut savoir que pour 90% des Chinois, la France est un pays romantique, réputé pour le vin et le fromage. Basta! Ah, le Chinois, tu peux lui vendre des tonnes de Babybel et des caisses de Beaujolais Nouveau, mais jamais tu lui refourgues un Kangoo. Jamais! Sauf si, encore une fois, au lieu de Guillaume Canet, le président avait emmené Nagui avec lui. Nagui, tu lui files un micro. à la foire des importations et non seulement il te remplit les carnets de commandes de la vache qui rit et de Préfontaine, mais en plus il te fourgue les kangous pour transporter le fromage et le pinard. Et avant de partir, il te réserve le zénith de Shanghai pour un taratata spécial nouvel an chinois. Eh oui, la force du gars. Alors maintenant, notre président, il part pas longtemps, il doit rentrer dans 2 jours. En même temps, ici en métropole, tout va bien, c'est vrai. Dans un mois, on aura ni bus, ni métro, ni train. Et d'après un sondage IFOP paru hier dans le JDD, d'après ce sondage, Marine Le Pen grignote et grignote encore des points en vue d'un duel de second tour de présidentielle. En 2002, Jean-Marie avait fait 17% face à Chirac. Sa fille aujourd'hui réunirait 45% des votes. Et combien de points peut-on grignoter en 2 ans et demi? Je ne sais pas. À demain.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Ça commençait bien, ça finit
ouais,
mal.
Ça finit.
Ah, malheureusement.
Ça finit mal. Vous n'avez pas les dates donc, de votre tournée. Hein. Ça commence le 10 janvier à Toul.
C'est ça, le 10 janvier, on est à Toul.
À Saint-Benoît après.
À Saint-Benoît après, juste après. Ouais, dans la Vienne.
L'Agny-sur-Arc, Drancy, Albertville.
Albertville.
Agnières-sur-Seine, tu vas pas tout répéter, ça va être très très long.
Pas tout répéter,
c'est très long. Du Bordeaux, du Lyon, c'est ça,
et tout ça pour finir en juin à Saint-Brieuc, le 20 juin.
Et tout ça pour finir à Saint-Brieuc.
Là, c'est ça, la dernière, c'est le 20 juin à Saint-Brieuc.
Mais non, mais ça, c'est imaginable qu'il y ait une dernière de duel à David et Jonathan.
Ben chaque année il y en a, mais là
chaque année il y a une dernière.
Ouais.
Non,
une
mais,
fête,
chaque, non
un
mais chaque année
dernière,
je ouais. me dis c'est fini, la pièce on la reprend pas, et puis chaque année on a envie de la reprendre. Mais là comme il y a l'idée du film, voilà, je m'excite ailleurs.
Et c'est en ce moment à Paris, je le rappelle, jusqu'au 25 janvier à l'Apollo Titre. Théâtre.
C'est possible qu'il y ait continué sans vous la pièce?
Alors on y a pensé et mais ça me paraît compliqué parce que tous les comédiens on a vraiment fait du sur-mesure, donc je trouve que personne est remplaçable là dans l'équipe.
Et le one man, être seul sur scène maintenant, ça vous donne plus du tout envie maintenant que vous avez vécu cette expérience?
C'est pas actuellement, c'est pas la priorité. Il y a franchement, il y a beaucoup de cinéma en ce moment, et la pièce, voilà, je vais me concentrer là-dessus, j'y reviendrai sûrement.
Parfait.
Mais pas tout de suite.
Qu'est-ce que, Leïla, qu'est-ce que tu as retenu de ces duels à David et Jonathan?
Ça faisait un moment que j'avais pas ri comme ça, sans m'inquiéter de quoi que ce soit.
Qu'est-ce que tu dirais d'Artus, Marina?
Bah ouais, justement, c'est bien de faire rire du ventre comme ça.
De faire rire du ventre.
Non, mais tu vois, de déclencher ouais. un rire hyper
c'est
réuni comme ouais. ça, qui est hyper ouais. Spontané.
Tanguy Passiro.
Moi, il me fait rire du genou, mais je suis un peu spécial. donc,
qu'il ait nos limites et tout ce qui touche, il le réussit, donc bravo. Ouais.
Merci.
Daniel Morin.
On a l'impression que c'est hyper spontané, on a l'impression de voir des potes qui ont écrit quelque chose et qui ne se cachent pas pour le sortir, et c'est tout à fait vrai. Ce qui nous fait rire, nous, peut...
Faire rire
dans le meilleur
autres.
Des cas, ouais. faire rire les autres. Mais j'aimerais quand même qu'on revienne sur Artus dans le Bureau des Légendes, qui est excellentissime. On a
très
pas
bon comédien,
parlé.
Bien sûr.
Excellent comédien.
Ouais.
Merci beaucoup.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que vous aimeriez entendre d'un membre du public sortant d'une salle de spectacle après duel à David et Jonathan?
On n'était pas très bon ce soir, mais
il m'a poursuivi. J'étais aux toilettes, il m'a poursuivi, putain.
Non, toujours la même chose. Qu'est-ce que vous êtes con, quoi. Voilà, moi, je sais que c'est les gens, ils me disent toujours, vous me faites penser à un cousin. Je fais toujours penser à quelqu'un de la famille, et j'aime bien. Je veux continuer à être ce cousin un peu con que tout le monde a.
Ouais, moi, je rajouterais quand même que c'est une connerie intelligente, parce que la forme est peut-être très, 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 très bête. Et ça fait ressortir en effet des éclats de rire, d'où qu'ils viennent dans le corps en tout cas, mais non maîtrisés. Mais il y a quand même du fond, et rien n'est gratuit. Et ça peut aussi, paradoxalement, donner à tchatcher, à discuter ou à réfléchir derrière.
On essaye.
Mais oui, c'est réussi. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oh, bien sûr. Déjà, désolé pour les derniers auditeurs d'Europe 1 qui nous ont écoutés ce matin et qui, avec Artus, ont regretté que l'on ne puisse dire pute ou couille. Bon, ça va, et on est la première radio de France. Merde, quand même. Désolé pour les auditeurs de France Culture qui nous ont écoutés ce matin et qui ont regretté que l'on puisse prononcer les mots pute et couille sur leur tête. Ça va, c'est pas Europe 1 non plus. Et désolé, enfin, pour les enfants qui nous écoutent et qui n'ont pas bien saisi les mimes que faisait Artus pour décrire le Peep Show. Alors, je vous explique. Ah ben non, en fait, non, vas-y, Leïla, t'es meilleur que moi en chose sale. Vas-y, fais-le.
Merci beaucoup, Artus.
Bravo, Leïla.
Merci
à vous.
Merci d'avoir trouvé le temps de venir à ce micro.
Un grand plaisir.
Un peu du temps.
Je peux revenir demain?
Et c'est nouveau
ouais.
tournage. Non, demain, c'est pas vous, c'est Sylvain Tesson.
Oh, ça va être chiant.
Qui sera là. Il a écrit un roman formidable sur sa quête de la panthère des neiges. On en reparlera demain.